toute Christine, qui à 20 ans se rêvait écrivain, est devenue à 37 ans l'une des voyantes les plus médiatisées de France. Nous avons donc décidé de lui proposer une expérience. Nous allons la conduire, les yeux bandés, dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Elle tentera alors non pas de deviner le lieu où elle se trouve, mais de décrire le passé de ce lieu. Bien qu'elle ne l'ait jamais fait, elle accepte de relever le défi.
Je crois que les capacités psychiques font complètement partie du potentiel humain et qu'en en démontrant l'existence, j'ai la sensation de contribuer peut-être à une meilleure compréhension de ce que nous sommes.
Maud a donc les yeux bandés et le foulard ne lui sera retiré qu'une fois sur place. Elle ignore, tout comme l'équipe de tournage, la destination prévue. Seul le journaliste la connaît. Voici le lieu que nous avons choisi. Nous sommes dans le 9e arrondissement de Paris. Cet immeuble a été construit dans les années 70 et rien ne reste de l'édifice qui s'y trouvait avant. L'expérience va se dérouler dans l'appartement de Madame Gazet qui attend l'arrivée de Maud Christine. Les stores ont été baissés pour empêcher la voyante de reconnaître le quartier. Ici se dressait l'un des cirques les plus célèbres de Paris. Le cirque Medrano, inauguré à la fin du 19e siècle, est dirigé par l'un des clowns les plus célèbres de l'époque, Medrano lui-même. Le cirque a connu son apogée entre les deux guerres, puis a été fermé, revendu et finalement détruit. 10h45. Après 30 minutes de voiture, Maud Christine arrive sur les lieux. Toujours avec les yeux bandés, elle est conduite au 4e étage.
Ce qui est très important, c'est très exactement le lâcher prise. Surtout pas essayer de savoir avant. Tenter une espèce de régression, c'est pour ça que les yeux bandés, c'est très bien. Devenir 80% de vide. De manière à laisser au lieu la possibilité de s'imprégner.
Vous pouvez enlever le bandeau.
Ça fait un drôle d'effet de se retrouver chez des gens qu'on ne connaît pas.
Mettez-vous à l'aise et...
Ce qui suit maintenant est un condensé des 20 minutes pendant lesquelles Maud Christine a parlé et dit ce qu'elle ressentait. Ses propos n'ont pas été dénaturés par le montage et l'ordre chronologique a été respecté.
Donc on va essayer de savoir ce qui s'est passé dans ce lieu.
Ces cartes lui sont indispensables. Une sorte de support, d'alphabet, qui permet d'après elle de mettre un peu d'ordre dans ses visions.
Le problème c'est que je ne sais pas si je suis en train de parler du lieu ou d'une personnalité, en fait, qui serait liée à ce lieu. Parce que c'est pas le lieu qui vibre comme ça, c'est quelqu'un. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est décédé. Il y a quelque chose de théâtral dans ce que je ressens. Parce que moi, c'est ça que je ressens. Ouais. C'est une vibration spectacle, de théâtre, de festif et à la fois très rétro, quoi. Toutes les images que j'ai, c'est rétro. Ici, c'est un appartement contemporain, un peu 80, je dirais. Et moi, les images que j'ai, c'est du velours rouge, c'est des gens qui applaudissent, c'est du rire. Et à la fois, il y a quelque chose d'un peu tragique là-dedans, probablement dans la fin de l'histoire. C'est probablement une histoire de théâtre qui s'est pas très bien finie. D'où la vibration passionnelle que j'ai à la fin, qui est pas bonne. Mais le lieu en lui-même, il m'inspire des paillettes. J'ai des émotions assez lyriques, en fait. J'ai le visage d'une... J'ai le flash d'une femme qui se maquille. J'ai des espèces de grands chandeliers. J'ai des images de grands chandeliers. J'ai des très beaux escaliers aussi. Ce que je vois, c'est ça. Donc ça n'a aucun rapport avec ce qui m'entoure. En fait, j'ai comme une sensation de déchéance personnelle ou quelque chose qui a été vécu comme tel, qui me fait de la peine, quoi. Quelqu'un de meurtri, qui était probablement quelqu'un de bien, avec du talent et de la sensibilité, mais qui a terminé meurtri, très meurtri.
Nous sommes dans cet appartement depuis maintenant 15 minutes. Nous proposons alors à Maud Christine de regarder un objet, un morceau du mur du cirque Medrano conservé par Madame Gazet. Bien entendu, rien sur cette pierre ne trahit son origine.
Ah oui, non, c'est complètement... ça va complètement dans les paillettes, dans la revue, dans... Oh, j'ai des sensations physiques de danse. C'est un endroit très animé. le lieu en lui-même a dû rester fermé. Il a été l'objet après de tout un tas de discordes assez sordides. Enfin, il y a toute une... C'est marrant parce que j'ai vraiment une sensation de scène, comme un hémicycle. Même de l'extérieur, ça devait être très très beau. Ce que j'en vois de l'extérieur est très... Il devait y avoir un dôme ou une coupole comme ça, dessus. Il y a une histoire de cirque. Ce que je vois, la coupole que j'ai vue, c'est comme un cirque. C'est comme un cirque. Et toutes les lumières que j'ai vues, le rond, c'est pas un hémicycle, c'est une piste en fait. C'est un cirque.
C'est tout à fait vrai. En fin de compte, ici, c'était le cirque Medrano. Voilà.
D'où les paillettes.
Voilà, exactement.
La revue, le mouvement, la musique.
Exactement.
D'accord.
On peut considérer que les détails donnés par Maud Christen correspondent au lieu. Les paillettes, le dôme, la piste. Le cirque a été transformé en théâtre sur la fin, puis fermé et détruit malgré les protestations des Parisiens. Reste l'impression de déchéance personnelle à laquelle Maud Christen a fait allusion. Pour en savoir plus, nous avons fait appel à Dominique Mauclair, historien du cirque. Il a connu Jérôme Medrano en personne et fréquenté son cirque.
Jérôme Medrano a dû quitter le cirque parce qu'il avait des problèmes d'argent. C'était un homme de spectacle, mais ce n'était pas un très 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 bon gestionnaire. Et c'est vrai que ça a été un très grand déchirement pour lui, pour sa femme. Car il était né quasiment dans ce cirque, il avait vécu ce cirque, il avait construit la légende de ce cirque, et ensuite, bien sûr, ils sont partis de ce cirque un petit peu à la sauvette. Ça a été un moment très, très dur, certainement pour Jérôme et pour Violette, peut-être plus par le fait que, en n'ayant plus ce cirque, il perdait sa raison d'être directeur de cirque.
Après son premier succès, Maud Christen accepte de se rendre sur un autre lieu et de retenter dans les mêmes conditions l'expérience. 20 minutes de voiture, le bandeau sur les yeux, nous l'emmenons cette fois à rue Chabanais, toujours à Paris. Ici se tenait dans les années 30 une très célèbre maison close dont le luxe inouï attirait même les têtes couronnées des grandes cours d'Europe. À l'intérieur de cet immeuble, il n'y a plus aujourd'hui que des bureaux. Nous faisons entrer Maud Christen, qui ôte son bandeau dans le hall d'entrée. L'escalier est d'époque, il n'a pas changé. Cette fois, cela semble plus compliqué pour Maud Christen.
Est-ce que c'est des accords politiques ? Non, j'y suis pas alors. J'y suis pas. Le pressé doit marcher, celui-là pas. Je ne suis pas infaillible. La connexion qui s'établit entre moi et le lieu que je dois identifier, parfois elle se fait, parfois elle ne se fait pas. Il suffit parfois d'éléments extrêmement infimes pour que les choses échouent. Une présence qui n'est pas souhaitable, une émotion désagréable, un léger mal de tête qui soudain interfère. La voyance est quelque chose d'extraordinaire mais de fragile.
Bon, un mot dans Voyance ce reportage, on a tout de suite envie de vous poser une première question, c'est... Quand vous êtes comme ça dans un endroit, qu'est-ce que vous ressentez exactement ? Quel type d'image vous vient à l'esprit ? Notamment pour Medrano, là, par exemple.
Pour Medrano, ça a commencé dans l'ascenseur.
Ouais.
C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est être vraiment totalement vide. Ça peut paraître curieux, on parle de concentration. Ce n'est pas de la concentration, c'est le contraire. C'est-à-dire arriver à ne penser à rien.
Et c'est quel type d'image ? C'est très clair ou c'est un peu flou ?
C'est comme quand vous avez des souvenirs. C'est-à-dire que si je vous demande ce que vous avez fait à Noël, vous allez probablement me répondre... vous allez avoir, par exemple, si je vous pose cette question, vous allez peut-être vous rappeler du lieu où vous étiez. Bon. Et puis après, vous allez détailler. Donc c'est exactement comme la mémoire, comme une mémoire, mais qui ne serait pas la mienne, et qui remonterait, qui referait surface.
Alors, justement, c'est vrai qu'on a préparé l'émission parce qu'effectivement, vous vouliez que certaines conditions soient réunies.
Oui,
et c'est vrai que du coup, on avait prévu ensemble, ce soir, de faire quelque chose en plus en plateau, oui. avec des enveloppes. Oui. Donc, on a fait les choses très sérieusement, un huissier, on a cacheté, bref. Oui. Il y a deux photos dans deux enveloppes. Et en arrivant, vous nous avez dit, ce soir, j'ai pas trop envie.
Je peux pas, parce que je me suis mal levée, j'ai mal à la tête. Il y a des jours où je décommande tous mes rendez-vous.
C'est aussi fragile que ça. Travailler.
Bien sûr. C'est fragile s'il y a un problème... ou extérieur ou interne.
Alors, ce que je vous propose, vous le savez, c'est que dans cette émission, il y a aussi des gens, alors nous, on est curieux, mais il y a des gens qui, franchement, ont un avis très tranché et qui n'y croient pas. On va les accueillir, bonjour, que je vais vous présenter bonjour. Tout de suite. Merci. Merci, Jean-Jacques, merci. Alors, je vais commencer par Jean-Jacques. Jean-Jacques Collas, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous présente. Vous êtes docteur, vous êtes neuropsychiatre, psychopharmacologue à Lyon, et vous avez, on va dire, les pieds sur terre. C'est votre métier.
Je pense les avoir.
D'accord. Oui. Et Sylvain Mirouf, vous connaissez sans doute. Sylvain est un magicien médiatique. Alors, pourquoi un magicien et pourquoi un scientifique? Parce qu'on s'est rendu compte que généralement, dans les phénomènes paranormaux, c'était en fait gérer les deux corps de métier qui étaient très importants d'avoir pour un petit peu décoder tout cela. Parce que parfois, il y a des trucs. Dans ces cas-là, s'il y a un truc, ben, c'est plutôt un magicien. Et puis parfois, il y a des explications très rationnelles. Et là, on a la science avec Jean-Jacques Collas ce soir. La première question, c'est plutôt à Sylvain que j'aimerais la poser. Parce que s'il y avait eu un truc, qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir?
Un complice peut vous suivre et aujourd'hui. Oui, mais on le fait. Il y a de nombreux magiciens américains qui sont spécialisés dans le mentalisme et les effets paranormaux et qui utilisent de telles techniques. C'est-à-dire que, par exemple, un complice suit l'endroit où vous allez et puis un micro-émetteur-récepteur caché dans l'oreille. Vous savez que maintenant, on peut... Non, mais ça fait du James Bond mode, bien sûr, c'est normal, mais ça peut tout à fait fonctionner. En tout cas, si moi, j'avais à le faire, je procéderais comme
attendez,
ça.
Je vous arrête.
Je ne dis pas que c'est ce que vous avez fait, mais...
Le complice, il aurait aussi fallu qu'il fasse toute une enquête sur le cirque Medrano avant. Il aurait fallu que le complice sache avant que c'était le cirque Medrano, que Medrano avait fini dans la déchéance, que ça avait été fermé pendant 20 ans. Donc c'est non seulement un complice, mais un complice qui a mis sur écoute M6.
Oui, oui.
Mais... Je sais pas si vous voyez, là on va très loin quand même.
On est entièrement d'accord. Mais
là on va vraiment très loin.
Je n'ai pas dit que c'était la solution, j'ai dit que c'était des solutions.
C'est absolument extraordinaire ce documentaire, ce reportage. C'est fabuleux. Moi, vous commencez l'émission très fort. Je dis que madame, est une brillante voyante qui manifestement gagne sa vie avec il n'est pas raisonnable de prendre ce reportage pour argent comptant.
Ah ben c'est pas notre but.
Et que cette dame charmante au demeurant a beaucoup plus de raisons de vous tromper que de dire la vérité.
Bon. Alors, docteur, est-ce que dans gérer l'histoire des études scientifiques, est-ce qu'il y a des éléments?
Aucun.
Rien.
Le dossier est vide.
Jamais.
Chaque fois qu'il y a eu un contrôle rigoureux, méthodologiquement correct...
C'est parfaitement faux. C'est parfaitement faux.
Ah oui.
Toutes les grandes civilisations ont produit des systèmes de divination assez perfectionnés. Je pense au Yi Qing, sur lequel Confucius a travaillé pendant des années. Je pense aux runes. Je pense à la géomancie. Les histoires de voyance existent depuis l'aube de l'humanité sur tous les continents. C'est le seul endroit en Occident, depuis 200 ans, où on dit que ça n'existe pas, pour des raisons qui sont véritablement des raisons rationalistes.
Oh.
Parce qu'en France, le pouvoir intellectuel et politique, il est tenu par des gens comme vous. C'est vous qui êtes une secte.
Est-ce que face à des gens avec lesquels vous n'êtes visiblement pas d'accord, est-ce que vous n'avez pas envie de leur dire « Ben voilà, il y a deux enveloppes, moi je vais vous montrer, etc. » Qu'est-ce qui fait que brutalement ça ne passe pas, Stéphane ?
On vous propose un test simple. Qui, relativement bien contrôlé, sous contrôle d'huissier, etc., vous refusez de le faire sous prétexte de mal à la tête. Ça me pose quelques questions, madame, ça, sur votre honnêteté intellectuelle.
Je vais vous parler brutalement. Si maintenant on vous demandait de faire l'amour avec une dame, vous en seriez capable? Là, maintenant?
Tout de suite, là? Ça dépend qui.
J'étais sûr.
Non, il n'y a pas de souci.
Bon, mais écoutez, on va éviter de glisser.
Parce qu'il y a quand même un effet émotionnel. Alors glissons.
Oui.
Compte tenu du contexte, il est bien évident qu'il est absolument... Toutes les études de parapsychologie ont démontré qu'il fallait que ça marchait que quand il y avait une harmonie.
Il faut être naïf, bien sûr, il faut être naïf.
Monsieur, vous confondez tout. Vous avez une représentation du monde qui est binaire,
l'évidence
et meurtrière.
Il n'y a pas
d'harmonie. Parce qu'avec le type de conception du monde que vous avez, les connaissances du psychisme humain n'avancent pas. Et l'homme est en train de se dégrader, la planète est en train de sauter, parce qu'il y a des gens comme vous qui partent du principe que l'esprit humain ne peut rien faire. Vous êtes matérialiste, c'est votre façon de voir le monde, mais c'est une attitude de secte. Ce n'est pas une attitude scientifique.
Je vais m'expliquer un truc. Allez-y. C'est que vous, ça va vous amener cette émission 3000 appels. Et moi, je risque un procès au Conseil de l'Ordre. Voilà la seule différence.
Stéphane, qu'est-ce que je vous ai dit avant cette émission? Je signale qu'exerçant depuis 14 ans, je ne peux pas prendre un seul client nouveau.
Voilà. Eh ben,
on peut conclure comme ça, si vous voulez.
Une petite boule de clientèle.
Hein, voilà.
Et il reste fidèle.
Vous les voulez tous les mois.
On va passer à autre chose, s'il vous plaît. Maud, Christelle, Sylvain Mirouf, Jean-Jacques Collas, s'il vous plaît, on va passer à un autre thème, toujours sur la voyance. Vous allez voir, vous allez encore largement avoir beaucoup de choses à dire. Motrice, et dans tous les cas, merci sincèrement d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil, ça a été un peu animé. Nous allons maintenant vous montrer une expérience qui, là encore, n'a jamais été tentée à la télévision. Un de vos confrères, Maud Christen, Claude Alexis, lui aussi médium, a accepté il y a 4 mois d'exercer ses talents sur 3 personnes que nous avons nous-mêmes choisies. Il ne les connaissait pas avant l'expérience et il a tenté à la fois de deviner leur situation professionnelle actuelle et de prédire leur avenir. C'était, je le rappelle, il y a 4 mois. Et ce soir, Claude Alexis et nos témoins vont nous rejoindre sur ce plateau pour savoir si les prédictions du voyant se sont avérées exactes. Mais pour commencer, je vous propose de faire la connaissance en images de nos 3 cobayes et d'écouter attentivement les prédictions de notre voyant.
Décembre 2000, Claude Alexis nous reçoit dans son cabinet, quelque part dans le 5e arrondissement de Paris. Nous lui proposons une expérience pour tester les dons de voyance qu'il prétend posséder. Le principe est simple, nous choisissons 3 personnes. Il les reçoit et leur fait des prédictions. Dans 4 mois, nous vérifierons si les événements prédits se sont effectivement réalisés. Nos 3 témoins, les voici. D'abord Xavier, 30 ans, marié, sans enfant. Son domaine, c'est la finance. Il est banquier et il a plutôt les pieds sur terre.
J'ai un a priori plutôt négatif en me disant de toute façon je n'y crois pas. Et certes, bon, je demande à être surpris parce qu'on peut toujours être surpris dans le domaine de la voyance ou des phénomènes paranormaux. Il y a des choses assez étonnantes.
Afin d'évaluer les performances de Claude Alexis, Xavier nous confie les changements auxquels il s'attend dans les mois qui viennent.
A priori, dans les 2 mois qui viennent, voyage professionnel qui est en train de se programmer et qui devrait avoir lieu. J'ai pour objectif d'acheter une voiture assez rapidement. Et puis, je dois avoir quelques précisions sur mon évolution professionnelle.
Maud, elle, a 35 ans. Elle est mariée et a 2 enfants. Avocate spécialisée dans le droit du travail, elle exerce à son compte dans un cabinet qu'elle partage avec 2 confrères. Mais elle a aussi une petite particularité.
J'ai la double nationalité franco-américaine, ma mère est américaine, j'ai vécu 2 années aux États-Unis.
Maud a été contactée par des chasseurs de tête, elle envisage de changer de cabinet et pour 2002 peut-être un 3e enfant. Quant à la voyance, ce n'est pas exactement sa tasse de thé.
J'exerce une profession où on ne laisse pas beaucoup de place à l'irrationnel, donc a priori la voyance, je n'y crois pas.
Guillaume vit chez ses parents. Il est étudiant en 2e année de droit. À 22 ans, il mène une vie plutôt insouciante, partagée entre l'université et les copains. Ses projets, trouver un job, prendre un appartement et très bientôt partir en voyage en Espagne. Le paranormal est un sujet qui l'intéresse.
Alors, j'ai déjà fait des séances de spiritisme, mais très franchement, je trouve ça assez sympa. Et donc j'ai toujours été attiré par les sciences occultes, mais la voyance, c'est encore un domaine que je connais pas. Et justement, j'attends d'être bluffé.
Samedi 16 décembre 2000, notre expérience commence comme prévu en début d'après-midi chez Claude Alexis. Pour les besoins du tournage, nous installons sur sa chemise un micro sans fil. Nos 3 témoins ont l'adresse du rendez-vous. Ils vont arriver séparément. Premier à se lancer, Xavier, qui doit se plier aux habitudes du voyant. Ici, on ne parle pas, on ne raconte pas sa vie. Un prénom et une date de naissance suffisent. Démonstration.
Alors, Xavier, le 24-06-70. Alors, vous allez avoir des grosses transformations qui vont se faire. Ces transformations se feront sur un point de vue professionnel.
En moyenne, les consultations que nous avons filmées ont duré une trentaine de minutes. Nous avons réduit cette durée au montage pour ne garder que certains passages significatifs.
Il y a, sur le lieu où vous vous trouvez, il y a également, vous avez une personne qui part. Vous apprenez le départ d'une personne, c'est quelqu'un qui a quand même un poste avec des responsabilités.
Regardez bien le visage de Xavier. Sans le vouloir, il réagit aux déclarations du voyant. des indications dont se sert peut-être Claude Alexis. Au cours de cette demi-heure, il mêlera dans son discours des détails censés appartenir au passé comme au futur. Parfois, un certain nombre d'affirmations sembleront correspondre à la réalité.
97, pour vous, est une année marquante. Pour moi, je pense que c'est une année, si vous voulez, où vous avez pu légaliser votre couple, où il y a pu y avoir une... où les choses ont pu s'officialiser. Comment ?
C'est exact.
Il y a quand même des chiffres importants, parce qu'il y a des sommes, si vous voulez, on discute argent là au milieu. Okay. Bernard, ça vous dit quelque chose ?
Oui.
Il y a un Bernard à côté de vous.
Oui, il y a un Bernard à côté de moi. Professionnellement, oui.
Il s'en va.
Il s'en va ?
Oui. Par contre, il y a un véhicule gris, là, c'est pour qui, ça ?
C'est ce que j'envisage d'acheter.
Parce qu'il y a un véhicule gris, ça se fera.
En résumé, Claude Alexis a prédit un changement professionnel, le départ d'un collègue de travail et mentionné un véhicule gris. Mais à plusieurs reprises, il a parlé d'événements qui ne correspondent à rien. Un projet d'achat immobilier, des problèmes d'eau au domicile de Xavier et des travaux de tapisserie.
Donc c'est Maud, le 1-8.
Avec Maud, notre avocate franco-américaine, tout se déroule de la même manière. Le prénom et la date de naissance, et ensuite, assez vite, arrivent des détails un peu plus précis, voire étonnants.
Qu'est-ce qui a à faire avec la loi à travers son travail ? Parce qu'il y a la loi qui ressort. C'est pour vous, ça ? Il y a je dis justice, hein ? Je dis justice. Hein. Mais il y aura un rapport, si vous voulez, avec l'étranger. Vous êtes attiré par le côté États-Unis ? Parce que ça, il y a les États-Unis qui ressortent sur vous.
Oui.
Oui. Les États-Unis qui ressortent et ça se mettra en place. Ça se mettra en place.
Étonnant, en apparence seulement, car le mot avocate n'a pas été prononcé. Seulement celui de justice.
Par laquelle ?
Par la suite, Claude Alexis sous-entendra que Maud pourrait chercher à s'installer aux États-Unis. Mais jamais il n'y aura d'allusion à sa double nationalité franco-américaine.
Le prénom de votre mari, qu'est-ce que c'est ?
Jérôme.
Il y a un petit accrochage qui ressort pour Jérôme. Mais bon, qui n'est vraiment que des dégâts matériels. Hein. Une tôle froissée, vraiment rien d'important. Et au moment où il y a cet accrochage, c'est pas lui qui conduit.
Conclusion de la séance. Maud doit s'attendre à un changement de cabinet, un déménagement à l'étranger, une grosse affaire à traiter et enfin la réapparition d'une personne perdue de vue depuis longtemps. Après une pause de 10 minutes, notre dernier témoin arrive. Dès le début, Claude Alexis prévoit pour Guillaume un avenir artistique avec sans doute un brin de psychologie.
On vous propose quelque chose au niveau de la photo, parce qu'il y a la photo qui ressort sur vous. Il peut y avoir quelque chose, si vous voulez, mais au niveau de la mode.
Au niveau Puis, de la entre mode. Autres détails apparemment significatifs, un prénom féminin et un voyage.
Virginie, ça représente quoi, ça ? Jeune Virginie, c'est...
C'est ma première petite amie avec qui je suis resté plus de 3 ans.
Ah d'accord, c'est une Virginie qui ressort. Là, il y a un voyage qui va se faire. Ce voyage concerne les loisirs et c'est quelque chose qui se fait rapidement. C'est quelque chose qui se décide rapidement. Vous aurez affaire avec un pays latin. Et puis latin, ça peut être soit l'Espagne ou l'Italie.
Parmi les événements auxquels Guillaume doit s'attendre, la perte de papier d'identité, une petite intervention de chirurgie esthétique, un problème à la cheville et une proposition de travail provenant d'une personne d'origine étrangère.
J'ai eu une fois un problème à la cheville, depuis elle est fragilisée.
À la fin de l'expérience, nous avons demandé aux témoins ce qu'ils pensaient de ce voyant. Curieusement, ils avaient oublié la plupart de ses erreurs. Ils sont donc repartis très impressionnés, mais sans savoir au fond s'ils avaient eu affaire à un homme doué de pouvoirs surnaturels ou simplement à quelqu'un de très intuitif.
Claude Alexis, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation parce que vous prenez des risques. En tous les cas, on a cherché pas mal de voyants pour tenter ça. On n'a pas trouvé beaucoup. Donc merci déjà à l'avance d'avoir accepté. Maud, bonsoir.
Bonsoir.
Guillaume, bonsoir. Vous avez remplacé Sylvain Mirouf qui va nous rejoindre un peu plus tard. Et on retrouve toujours notre docteur Jean-Jacques Aulas. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Claude, c'est est-ce que vous avez l'impression d'avoir été bon ? Est-ce que vous avez quelques craintes avant la révélation de cette voyance à 4 mois ?
Avoir l'impression d'avoir été bon, ça, c'est pas à moi de le dire. Maintenant, j'essaie de donner le maximum de moi-même au niveau des consultations. Et puis, le résultat, c'est uniquement par le consultant.
Maud, alors on a vu, hein, vous êtes avocate. Qu'est-ce que Claude Alexis a réussi à voir dans votre avenir qui s'est effectivement réalisé?
Alors ce qu'il a vu, c'était effectivement le changement de cabinet, puisque j'ai signé avec un nouveau cabinet et je commence un nouveau travail le 1er mai.
Vous avez effectivement donc, changé de métier.
J'ai effectivement changé de métier. Donc ça, c'était assez déconcertant au moment de la consultation.
D'accord. Et est-ce qu'il y a en revanche des choses qui ne se sont pas passées et qui, au jour d'aujourd'hui...
Oui, il a tôle froissé. Heureusement, il ne s'est toujours rien passé.
Tant mieux.
Voyage à l'étranger, il y a eu des déplacements à l'étranger, déplacements professionnels qui n'ont pas servi, à grand-chose. Un déménagement aux États-Unis, ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Bébé peut-être, mais rendez-vous dans un an pour en reparler. Il a quand même vu la loi, le droit, des procès au moment où on a tiré les cartes. Donc, il ne s'est pas trompé de cadre professionnel.
Je vous propose maintenant d'écouter l'un des trois cobayes qui n'est pas présent ce soir, qui a été retenu, c'est Xavier le banquier. Alors vous allez écouter tout de suite le résultat. 4 mois après, on l'a enregistré il y a 2 jours, son extrait récent, et vous allez voir ce qui s'est passé pour lui et ce qui ne s'est pas passé.
Il avait annoncé qu'un enfant dans mon entourage proche allait à l'hôpital. C'est effectivement produit. C'est Jules, le fils de ma sœur, qui est allé à l'hôpital et il n'y avait rien de grave, chose qu'il avait dit. 2, il avait annoncé également qu'au niveau professionnel, j'allais un petit peu évoluer. Il s'est effectivement passé des changements. Troisièmement, il avait annoncé l'acquisition d'une voiture grise avec une description assez fidèle de ce que je veux acheter. Alors, on ne l'a pas acheté la voiture, mais c'est toujours d'actualité. Dans les choses qui ne se sont pas produites... Il avait parlé d'un Bernard, donc dans mon entourage professionnel, qui allait peut-être quitter la société. Alors, il n'a pas quitté la société, il y a eu du mouvement pour lui, mais ce qu'il a dit ne s'est pas réellement produit. Deuxièmement, il avait évoqué le fait qu'on allait retapisser dans l'appartement, et a priori, on n'a pas retapissé, sinon je le saurais. Troisièmement, il avait parlé d'un problème d'eau, d'inondation ou de fuite. On n'a pas eu de problème, fort heureusement pour nous, depuis qu'on a fait la séance. En sortant... J'ai été surpris, mais en prenant du recul, en fait, je reste assez convaincu que je ne le suis pas vraiment, en fait.
Voilà pour Xavier, notre banquier. Et il y a le troisième cobaye, Guillaume. Bonsoir, merci d'avoir accepté de tenter cette expérience avec nous. Alors, pour vous, il y avait un voyage en Espagne, si je me rappelle bien, un avenir dans la photo, en tout cas des contacts professionnels, puisque vous êtes étudiant, vous ne travaillez pas, je le rappelle, mais vous cherchez éventuellement à travailler. Alors,
ce qui était très surprenant de la part de Claude Alexis, c'est en effet ce voyage en Espagne, enfin dans un pays latin, Italie ou Espagne, et en fait, 3 ou 4 jours après, avec mon meilleur ami, on est parti en Espagne.
Et vous avez pris les billets avant ou après la consultation ?
Non, avant consultation. D'accord. Avant consultation. L'organisation s'est faite de manière un peu chaotique, mais tout s'est déroulé comme l'avait en effet prévu Claude Alexis.
Vous avez l'impression que ça a plutôt marché.
Écoutez, avec le recul, en effet, en faisant le bilan, on se rend compte qu'il y a quelques petits décalages, mais globalement, ça reste tout à fait impressionnant.
On voit que lorsqu'il s'agit de Virginie, ça vous trouble.
Oui, complètement.
Alors, je ne sais pas si on peut, Claude, dégager une tendance. En tous les cas, il y a des choses étonnantes, objectivement étonnantes. Il y a des choses qui sont objectivement aussi à côté. Est-ce que vous avez une réaction, une explication ?
Non, la seule réaction que je peux avoir par rapport à ces consultations qui ont été faites, c'est que bon, là, on a donné un laps de temps de 3 mois. C'est vrai que bon, quand on fait des consultations à quelqu'un, c'est pas dans la semaine qu'il suit, et les consultations peuvent aller jusqu'à 1 an, voire 2 ans. Le temps en voyance, on ne le calcule pas.
Docteur Hollas, alors, vous avez vu le sujet, vous avez vu, on avait mis exprès 2 caméras, une pour regarder effectivement Claude Alexis faire ses prédictions, une autre pour bien scruter les réactions de nos consultants, de nos cobayes. Alors, ça vous inspire quoi ?
J'imagine que vu le nombre de prédictions qui ont été faites en l'espace de 30 minutes, de par la seule théorie des probabilités, il serait quand même fortement étonnant qu'il n'y en ait pas quelques-unes qui se réalisent. Il y a un deuxième élément. Moi, j'accorderais facilement à ce monsieur un don, entre guillemets, de l'ordre de l'intuition, de la communication infraverbale, c'est-à-dire qu'il a peut-être le don de percevoir ce qui n'est pas exprimé. Enfin, de percevoir avec une marge d'erreur relativement réduite, ce qui donne l'impression de faire des bonnes prédictions.
On dit que les voyants disent des choses très vagues, etc. Il a pris quelques risques sur les prénoms, par exemple. C'est de la statistique aussi ?
Bien sûr, vous savez très bien qu'en fonction de l'année de naissance, il y a des prénoms qui sont plus usités que d'autres, choix des effets de mode,
etc. Par exemple, Virginie, pour la génération de Guillaume,
c'est pas très étonnant, quoi. Ça serait appelé Eugénie ou Philomène, c'eût été quand même plus.
Et voiture grise, grosso modo, j'imagine qu'il y a beaucoup de voitures grises.
Voiture grise pour un homme d'affaires, on l'imagine pas avec une voiture verte et des tomates rouges. Hein.
D'accord. Pour les gens qui consultent, ou en tous les cas, bon, eux, ils l'ont fait un petit peu pour nous, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est dangereux?
Ben ça, pour certains, ça peut être utile, ça peut être une excellente thérapeutique. Carrément. C'est peut-être pas plus mal de voir son voyant tous les 6 mois que voir un psychanalyste toutes les semaines.
Ah oui.
Ni l'un ni l'autre ne sont remboursés par la sécurité sociale, donc ce n'est pas un problème de déficit des dépenses de santé qui est en cause.
C'est important, vous êtes médecin et vous pensez qu'éventuellement, parfois, un voyant qui serait plutôt bien intentionné ne serait pas plus mauvais qu'un psy.
Ah bien absolument, je persiste et je signe.
Ah oui.
Ah oui, tout à fait. Il y a des concierges aussi qui font ça très bien.
D'accord, parce qu'ils écoutent, parce que c'est ça.
Mais bien sûr, parce qu'elles ont un don d'écoute, parce qu'elles sont empathiques, parce que donner une oreille bienveillante et attentive à un déversement de plaintes et à la souffrance humaine, ça apporte de la consolation. Vous savez, ce ne sont pas les médecins qui soignent le mieux la souffrance humaine lorsque cette souffrance est d'ordre existentiel et s'exprime essentiellement par des plaintes. Ce ne sont peut-être pas les mieux placés et sûrement pas lorsqu'ils prescrivent des médicaments.
Claude, vous avez quand même une vraie responsabilité. Lorsque vous prédisez quelque chose, vous imaginez bien que les gens vont être influencés, vont penser à ça. Est-ce que vous y avez pensé pendant
quelques jours ? Non, pas du tout. Les gens doivent rester libre arbitre. On n'est pas là pour diriger. Moi, je ne suis pas là pour diriger la vie des gens.
Ouais. Mais vous leur annoncez des choses ?
Mais on leur annonce, si vous voulez, des événements, parce que ces événements, on les perçoit. Mais de là à dire qu'il faut, si madame avait un choix à faire dans son travail, si vous voulez, je ne me serais jamais permis de lui dire, laissez ce travail, prenez celui-ci. Mmh. Je suis qui, moi, pour me permettre de faire ça ?
Donc, bon, en tous les cas, on voit, ce qui est assez intéressant, c'est que ce n'est pas complètement tranché. À l'évidence, vous accordez aux voyants un certain crédit psychologique, pas une capacité à voir l'avenir, mais un support, éventuellement. Pour vous, c'est ça,
en fait. Pour moi, c'est très clair. Un voyant n'a pas de don extraordinaire. Mais ça ne veut pas dire que la fonction sociale du voyant est négligeable, je ne pense pas. Je pense qu'un voyant honnête, enfin... Vous voyez, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il dit « je ne vais pas annoncer un décès, je ne vais pas influer ». Bon, c'est plutôt sympa, ça.
Hein?
C'est un bon psychothérapeute.
Voilà. Ah, carrément.
Il rassure les gens. Oui, d'accord, carrément, il ne faut pas de diplôme.
Alors, voyant, pas sûr, mais psychothérapeute, à l'évidence, pas mauvais.
Ah oui, absolument.
Bon, donc, libre à chacun d'aller voir ou non un voyant, mais faites vraiment attention, ne dépensez pas trop d'argent. Je crois que les consultations, ça ne doit pas être très cher. Je parle encore sur votre contrôle, mais ça ne sert à rien de se ruiner. C'est combien d'heures chez vous? Je ne sais pas.
450 francs.
Voilà, en tout cas, bon, une ou deux fois par an, bon, voilà, si on le veut et si on a quelques faiblesses. Non, mais surtout...
Il faut consulter tous les 6 mois.
Ah, c'est ça, hein, vous êtes d'accord, il ne faut pas être accro à son voyant.
Une fois par an, ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller...
En tous les cas, merci à tous d'avoir accepté cette expérience. Merci surtout à vous, Claude, d'avoir pris quelques risques. Docteur Hollas, vous restez avec nous. Après la pub, nous parlerons des étonnantes capacités de l'hypnose. Nous parlerons également des guérisseurs, des magnétiseurs. Certains semblent obtenir des résultats et je suis sûr, docteur, que vous avez une opinion là-dessus. Et puis nous parlerons même des fantômes. A tout de suite après la pub.
Dans un instant, les magnétiseurs. Ils prétendent pouvoir soulager la douleur et même guérir les malades. Pouvoir mystérieux ou simple influence psychologique, nous avons enquêté. Entre les mains d'un hypnotiseur, ces étudiants de Polytechnique se prennent pour des animaux et ne savent plus compter. Simple spectacle ou réelle modification du comportement? Uri Geller est devenu une véritable star en affirmant être capable d'influencer la matière par la force de la pensée. Sa marque de fabrique, les cuillères tordues. Génie au pouvoir surnaturel ou illusionniste surdoué.
Voilà, retour sur le plateau de Normal Paranormal avec nos deux invités, Sylvain Mirouf, le célèbre magicien, et le docteur Jean-Jacques Hollas, neuropsychiatre à Lyon. Nous allons maintenant, messieurs, aborder un thème beaucoup moins controversé par la communauté scientifique que la voyance, mais tout de même très mystérieux, l'hypnose. Imaginez une salle composée de plus de 500 jeunes, les plus rationalistes du monde, qui ont l'habitude de ne croire qu'à ce qu'ils voient. Des élèves de l'école polytechnique tombés soudain sous l'emprise de l'hypnose. C'est l'expérience à laquelle nous avons assisté pour vous, une expérience extraordinaire, vous allez le voir, au cours de laquelle l'hypnotiseur Alban Dejon a modifié étrangement le comportement de tout un public réputé pourtant incrédule. Regardez.
Chaque année, Alban Dejon est invité par les élèves de l'école polytechnique. Une tradition pour lui, puisqu'il se produit ici depuis plus de 25 ans.
Vous savez,
la salle est remplie du public le plus cartésien, peut-être le plus sévère qui soit. Des polytechniciens, mais aussi des étudiants de Normale Sup et d'autres grandes écoles.
Vous ne dormez pas dans les amphis, mais là vous allez dormir.
Avec moi, ça n'est jamais truqué. Alors, il y a effectivement certains hypnotiseurs qui pratiquent des trucs.
et qui ne truquent que pour assurer une qualité de spectacle. Alors, ils amènent des gens qui sont déjà hypnotisés, qui seront vraiment sous hypnose, et dont ils connaissent le rire tonitruant ou, si vous voulez, une façon de se comporter qui va être drôle.
Ici donc, selon Alban de Jean, pas de trucage, sauf si ces futurs polytechniciens sont tous complices malgré eux de l'hypnotiseur. Or, dès le début, la plupart d'entre eux vont se prendre au jeu et se donner en spectacle jusqu'à se découvrir des réactions qu'ils ignoraient eux-mêmes. Mais avant d'en arriver là, il a d'abord fallu sélectionner les personnes les plus sensibles aux suggestions. Première étape, ce petit test.
Vous serrez s'il vous plaît fortement les mains et vous tirez fortement en avant sur les bras s'il vous plaît. Quand vos mains seront fortement collées, à 5 elles seront tellement fortement collées que vous ne pourrez pas les décoller. Et ceux et celles qui ne pourront pas viendront simplement me rejoindre tranquillement.
Le petit test a l'air de fonctionner. Certains paraissent amusés, d'autres réellement surpris de voir leurs mains soudées entre elles.
Ça fait vraiment bizarre parce que j'essaie de décoller les mains et j'arrive pas. Et même si j'ai la volonté, j'arrive pas à décoller les mains. Donc impossible, non, impossible.
Deuxième test, la capacité à s'endormir brutalement. À partir de ce moment-là, le spectacle peut commencer. Il va durer plus de 3 heures et jamais l'hypnotiseur ne cessera de parler. Première démonstration, un classique du genre.
D'abord, cette demoiselle, voilà, hop, vous dormez, les paupières se ferment lourdement. Vous fermez les poings, mademoiselle, s'il vous plaît.
En quelques minutes, 3 jeunes filles choisies par l'hypnotiseur vont devenir complètement rigides.
Et dans un instant, on va vous soulever, votre corps va devenir raide comme un bloc d'acier, les bras deviennent raides, la nuque se raidit, et on va m'aider à vous soulever, Pascal va m'aider, on prend sous les jambes, le corps devient une planche de métal, encore plus raide les deux jambes. Un bloc raide, un bloc de métal, les poings bien fermés, le corps se raidit.
Il est possible, en tout cas on peut le supposer, que ces jeunes filles simulent pour simplement jouer le jeu et ne pas décevoir l'hypnotiseur.
Plus solide, montez monsieur, un bloc d'acier, un bloc de métal.
Mais comment expliquer alors qu'elles parviennent à supporter le poids de ce jeune homme? Il suffit peut-être de contracter ses muscles, et pourtant, ces jeunes filles ne donnent pas vraiment l'impression de faire beaucoup d'efforts.
Impossible de plier.
Tout le monde essaye un jour d'être tout raide, etc., ou ne serait-ce que pour nous porter. On n'a jamais réussi à me porter tout droit comme ça. J'étais toute raide, ça je sais, mais j'ai senti juste un... Enfin, j'ai senti comme une main... qui touche, quoi. Juste un truc qui touche.
Mettez-les en bas, pas les uns sur les...
Une conscience modifiée, des sensations inhabituelles. Pour ceux qui utilisent l'hypnose dans leur cabinet, tout cela s'explique facilement.
L'hypnose n'a rien de magique. Toutes les peurs vont céder dès l'instant où la conscience lâche un petit peu. Donc on se laisse totalement aller et là on accède à certaines ressources dont on n'a pas conscience. Est-ce qu'on peut hypnotiser quelqu'un contre son gré? La réponse est non. Tout comme on ne peut pas l'obliger à faire quelque chose dont elle n'aurait pas envie. On ne peut pas, si on n'a pas l'assentiment, si on n'a pas la confiance de l'autre, on ne peut pas la mettre en état d'hypnose.
Vous allez pouvoir devenir maintenant un animal et en vivre des moments merveilleux. Votre corps se transforme.
Et pour obéir aux suggestions de l'hypnotiseur, de la confiance, il en faut. Ces jeunes polytechniciens vont accepter de se comporter comme des animaux sous le regard amusé du public.
Et on est bien, on est heureux. Et quel que soit l'animal qu'on est, on se positionne quelque part près de congénères de son espèce. Et dans un instant, on va crier sa joie. Et on crie sa joie avec sa voix animale. On la crie totalement. On sent la force, la puissance. Complètement, totalement.
On veut participer, mais après on se laisse faire. C'est une espèce d'état un peu mou, en fait. Et puis...
Mais même au moment où il m'a demandé d'être un animal, je sentais même, j'avais une impression au niveau de la peau qui était un peu différente. C'était assez agréable.
On va se
jeu de rôle, effet de groupe, pouvoir de l'imagination, difficile de savoir s'il s'agit d'hypnose ou d'un simple défoulement collectif. Pourtant, d'après les spécialistes de l'hypnose, il existe des états hypnotiques moins spectaculaires, mais dont chacun de nous fait régulièrement l'expérience.
Dans la vie quotidienne, par exemple, lorsque vous êtes au volant, sur l'autoroute, un long trajet, Paris-Lyon, je pense que lorsqu'on conduit, on ne regarde pas tous les panneaux, on a juste un certain état, encore une fois, entre l'univers onirique, on peut penser à plein de choses, et puis la conduite à proprement parler, avec des gestes automatiques, synchronisés, où là, votre conscience est, je dirais, par moments absente. Elle est là, vigilante, mais vous pouvez en même temps, c'est cette dissociation, vous pouvez être ici et en même temps ailleurs.
Autre démonstration. L'hypnotiseur va tenter maintenant de faire oublier à ses forts en maths le chiffre 2.
1 plus 1 égale 3. Mais avec beaucoup de logique, avec beaucoup de bon sens, Vous en déduirez que, bien sûr, puisque 1 plus 1 font 3, eh bien, vous avez 3 mains, vous avez 3 yeux, vous avez 3 oreilles. On a bien sûr une main et une main. On a combien de mains en tout ?
3 !
Et on a combien de doigts à la main ?
3, 4, 5, 6, puis 7, 8, 9, 10, 11, quoi.
C'est normal.
Le coup de 1 plus 1 égale 3. Donc dans ma tête, je savais toujours que ça faisait 2 d'une certaine manière, mais j'avais quelque chose dans ma tête qui était écrit qui disait 1 plus 1 égale 3. Puis même le fait de voir qu'il y avait des gens autour qui entraient aussi dans le jeu, ça au début, ça rassurait bien.
À des enregistrements réalisés par un électroencéphalogramme, on a retrouvé des états bien différents de ceux qu'on peut connaître lorsqu'on est là en train de se parler ou lorsqu'on est en train de dormir, tout simplement, et ce qui permettrait de dire que l'état d'hypnose, c'est entre ces deux états-là.
Entre veille et sommeil, donc. Une définition, à vrai dire, un peu floue, qui ne fait que décrire l'hypnose sans vraiment l'expliquer.
Catherine Rémy, bonsoir. Alban Dejon, bonsoir. Alors, Catherine, bonsoir. Vous êtes étudiante à l'École Polytechnique, en troisième année, je crois.
Oui, oui, oui.
Ça vous a pas paru surréaliste de faire ça ?
Non, parce que c'est un petit peu comme dans un rêve, en fait. C'est, l'imagination se débride, en fait.
C'était un rêve ou un jeu ?
Les deux, un rêve et un jeu, je pense.
Est-ce que vous aviez conscience que les autres faisaient des choses tout aussi surréalistes que vous ?
J'étais plus seule, non. J'étais un peu dans mon monde que j'imaginais tout autour, et puis... Oui, c'est ça. Quand j'étais un lapin, et puis je faisais pas attention au fait qu'il y ait d'autres lapins ou pas. Non, parce que
ridicule de faire ça.
Pas trop, pas trop. Mais on prend après la mesure de la chose quand on commence à se réveiller vers la fin. Moi, ça, je me suis un peu réveillée vers la fin, et là, je me suis dit, oulala, mais stop, stop.
Alors, Alban Dejon, expliquez-nous un petit peu. On voit en début de sujet, vous faites d'abord un test, les bras tendus. Ça sert à quoi, ce test ?
Le test n'est pas du tout un test d'hypnose. Déjà, je ne fais participer que ceux qui le veulent bien. Tout le monde est hypnotisable. Alors, il y a des contre-indications. Tout le monde. Alors ça, je garantis que tout le monde l'est. Quelquefois, on dit le contraire pour rassurer des personnes qui pourraient redouter d'être hypnotisées.
Mais même le docteur, par exemple.
Bien évidemment. Plus les gens sont réceptifs à la communication, et plus donc ils peuvent être hypnotisables.
Je vais vous dire. Lorsque j'ai commencé ma carrière de neuropsychiatre, oui. Je me suis intéressé à l'hypnose. Oui. J'ai effectivement lu beaucoup d'ouvrages sur l'hypnose, et j'en suis arrivé à la conclusion que c'était... et c'est Bernheim qui l'a dit, que le moteur essentiel de l'hypnose était la suggestion, et dès l'instant qu'on arrivait...
À partir de là,
j'ai fait de l'hypnose, j'ai pratiqué l'hypnose, mais sans référence à aucune école.
Justement, si on obéit à des ordres, partons de ce principe-là, si on obéit à des ordres, à une suggestion, est-ce que si Sylvain suggère à Catherine quelque chose... Est-ce que ça va marcher ? Ce ne sera pas de l'hypnose et pourtant ça va marcher.
Je ne suis pas le seul hypnotiseur.
Faites une démonstration de votre hypnose à vous.
Mais l'hypnose n'est pas que suggestion.
Alors, la suggestion, c'est d'autres. Allez-y, Sylvain.
Vous serrez vos mains comme ceci, comme on le fait habituellement. Et vous allez allonger les deux index. Donc vos deux index se touchent. Je vais maintenant vous demander d'écarter les doigts le plus possible. Vous aussi, chez vous, vous le faites. Vous écartez bien les doigts. Et par le pouvoir de ma pensée, vous allez voir vos doigts. Et regardez, vous voyez ? Écartez bien les mains et vous allez voir les doigts. Regardez. Vous voyez que ça se rapproche ?
Oui. Oui, mais c'est physique.
Exactement, c'est physique. Et c'est aussi physique que ce que je vous demande de vous allonger au sol.
On va tenter quelque chose d'autre. On va voir. Ensuite, Alban, vous parlerez.
Ils sont toujours bien écartés, moi, les miens.
Voilà.
On laisse Sylvain parler.
Vous savez, c'est la suggestion. Il faut vouloir être hypnotisé.
La suggestion n'est pas l'hypnose. C'est un élément qui contribue à l'hypnose.
Non, là, je ne suis pas l'hypnose. On laisse finir, s'il vous plaît. Laissez travailler, Sylvain.
Docteur, vous voulez bien m'aider ?
C'est un élément l'hypnose.
Vous prenez mademoiselle par ses épaules. Je vais vous demander de raidir votre corps. Vous le raidissez, mais bien.
Ça, c'est ce qu'on a vu.
Travaillez les abdominaux, d'accord ?
D'accord.
Vous fermez les yeux, vous respirez bien, vous bloquez la ceinture abdominale, d'accord ?
Ouais.
Allez, vous la prenez par les épaules, vous la soulevez, voilà, vous tenez, mademoiselle, vous tenez, dur comme une barre de fer, voilà. Et on ne va pas vous faire asseoir dessus.
Ah, c'est qu'il y a un rêve, là. Je vais pas lui voir s'il y a un risque, parce que si vous voulez, moi, sous hypnose,
vous avez une tétanie.
On est d'accord. Alors que sous hypnose, il y a une tétanie qui fait qu'elle a pas mal. Non, mais là, si je m'assieds, elle aura mal. Donc c'est pas de l'hypnose.
Vous voulez bien la je vais finir.
Parce que si je m'assieds dessus, elle aura mal. Alors que sous hypnose, on crée une crampe généralisée sans douleur. Là, elle a fait un effort de son dos.
Restez assis,
on aurait pu se faire mal.
Non, ce que je veux dire, porte-à-faux. Je veux dire pourquoi je suis en porte-à-faux. Parce que on fait des métiers de spectacle qui reposent sur des secrets ou des connaissances qui sont des méconnaissances auprès du grand public. À partir du moment où vous exploitez ces méconnaissances pour faire croire en certaines choses, ça c'est dérangeant. Mais à partir du moment où vous exploitez ces méconnaissances pour divertir l'ensemble des spectateurs, là, c'est tout à fait honorable. Le problème, c'est que la limite, parfois, est franchie parce que pour créditer certaines choses, on passe dans un amalgame et on mélange la voyance, le magnétisme, le paranormal, les fantômes et l'hypnose.
On a compris votre avis. Hein, grosso modo, vous allez voir, on va pouvoir continuer.
Si vous voulez venir à un spectacle, pour voir que ce n'est pas du spectacle.
Non, mais
moi, et vous pourrez voir toutes les personnes arriver.
Non, mais écoutez, là, c'est remarquable. En tous les cas, laissez-moi juste finir. Comme on vient de le voir, l'hypnose de spectacle ne fait pas l'unanimité, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Mais il y a tout de même des applications beaucoup plus sérieuses de l'hypnose. Je crois que vous en êtes tous d'accord. Certains hypnotiseurs tentent d'aider les gens à mieux dormir ou à arrêter de fumée, ou plus surprenant encore, l'hypnose a parfois été utilisée par la justice pour aider à résoudre des affaires criminelles. Nous allons donc retrouver Alban Dejon sans sa tenue de scène et dans un rôle franchement différent. Regardez.
Dans son cabinet parisien, Alban Dejon traite sous hypnose des problèmes aussi divers que le tabagisme, la timidité ou encore les phobies telles que la peur de l'avion.
Vous signez avec vous-même.
Mais son travail ne s'arrête pas là. Cet ancien gendarme commandant de compagnie de garde républicain apporte régulièrement son concours à la justice. Sa spécialité, faire ressurgir chez des victimes ou des témoins des souvenirs inconscients. Une pratique qui se veut discrète, mais dont on parle de plus en plus. À son actif, déjà 30 affaires pour le compte de 20 magistrats différents.
Je vois de taxi. Eh bien, il voit un véhicule de tueur qui part précipitamment. Il ne sait pas qu'il y a eu un crime. Mais il voit que cette voiture lui coupe la route. Et puis, il la suit, mais naturellement. Et il voit les gens à l'arrière qui regardent avec un air très méchant. Et il voit que quelqu'un a une arme à la main. Alors là, il se dit, bon, on va peut-être mieux pas continuer à les suivre. Et il s'arrête. Et sous hypnose, il retrouve l'immatriculation. Et il permet un portrait robot. Et ça permet de résoudre l'affaire.
Depuis janvier 2001, un arrêt de la Cour de cassation de Rennes a rejeté l'utilisation en France de témoignages recueillis sous hypnose. Afin d'en savoir plus, nous nous sommes rendus en Belgique pour rencontrer le docteur Martin. Ce psychiatre travaille régulièrement avec la police belge. Nous le retrouvons dans un supermarché de Bruxelles où il a travaillé sur une affaire de meurtre.
Il y a eu un hold-up où deux auteurs ont pénétré le bâtiment par le parking et ont donc tué un agent de sécurité. Plusieurs témoins ont croisé les auteurs, se sont même bousculés. Nous avons utilisé l'hypnose afin d'approfondir leur mémoire, en quelque sorte, pour avoir le meilleur portrait robot possible des auteurs présumés.
Dans les années 80, une bande de tueurs armés dévalise plusieurs supermarchés tirant sans raison sur hommes, femmes et enfants. La tuerie du Brabant, comme on l'appelle alors, fait 28 morts au total. Elle mobilise toute la police du pays, mais en vain. 10 ans plus tard, on décide de réentendre les témoins, mais sous hypnose cette fois. De nouveaux détails physiques et vestimentaires viennent enrichir le dossier. Et surtout, pour la première fois, ils permettent l'élaboration de portraits robots. Claude Michaud est l'un des magistrats en charge de l'affaire. Pour lui, pas de doute, l'hypnose, ça marche. Il y recourt aussi souvent qu'il le peut, d'autant que 2 témoignages différents recueillis sous hypnose peuvent donner le même portrait robot. Un exemple sur cette image, le portrait numéro 10 à gauche de l'écran a été réalisé d'après le témoignage d'une première personne.
Le voisin, le numéro 14, c'est un portrait robot dessiné sur base du témoignage d'une autre personne qui a été témoin d'un autre fait, qui ne s'est d'ailleurs même pas produit au cours de la même année. La ressemblance est troublante, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut raisonnablement prendre en considération le fait qu'il s'agit de la même personne. Ce n'est pas l'hypnose en tant que telle qui permet de solutionner une affaire, mais des renseignements qui avaient été communiqués sur base de témoignages de personnes entendues sous hypnose ont permis de faire progresser effectivement de manière sensible.
Les tueurs du Brabant n'ont toujours pas été appréhendés. Mais pour la police, l'hypnose semble avoir prouvé une certaine efficacité. Pourtant, la manière avec laquelle elle peut réactiver notre mémoire reste vague et en grande partie inexpliquée.
C'est augmenter l'accès à sa propre mémoire. Nous savons tous, quand nous regardons des photos dans un album du voyage, que quelque part, en regardant les photos de voyage, des tas de souvenirs nous reviennent. Donc dans la mémoire, nous conservons des tas d'éléments qui ne sont pas accessibles consciemment. C'est à ce niveau-là, de l'accès à la mémoire, que nous travaillons.
Un travail qui ne permet pas de résoudre les affaires criminelles, mais qui y contribue dans certains cas. Reste qu'une fois de plus, on se borne à constater les résultats sans pouvoir les expliquer clairement.
Alors, on le répète encore une fois, un arrêté récent de la Cour de cassation interdit l'utilisation de l'hypnose dans les investigations. Alors, vous, Alban de Jonce, cet arrêté, par exemple, ça vous inspire quoi? Parce que visiblement, vous avez travaillé avec des magistrats dans le passé, donc puisque maintenant, c'est plus possible.
C'est interdit, pas sur les témoins consentants. C'est interdit sur les personnes soupçonnées. Et là, je consens à ce que ce soit interdit, il y a un respect de la personne humaine. Contraindre des gens à parler par un procédé, qu'il soit drogue, torture ou même hypnose, on peut l'interdire. Pour l'instant, ils ont dit qu'on ne pouvait pas prendre l'hypnose comme une disposition légale, mais comme ils ne définissent pas ce qu'est l'hypnose, et comme ils ne peuvent pas empêcher que les témoins viennent me voir avant et soient sous hypnose pendant les interrogatoires, ils n'ont aucun moyen donc, de mettre ça réellement en application.
Mais vous, docteur, est-ce que vous croyez éventuellement à la qualité des témoignages sous hypnose?
Permettez-moi de faire une observation préliminaire qui est la suivante, quand même. Qui est des événements particulièrement traumatisants, qui soient refoulés à l'intérieur de votre mémoire, et que des techniques psychologiques vous permettent d'y avoir accès, que ces techniques s'appellent la méditation transcendantale, l'hypnose ou autre chose, c'est une évidence.
Si je vous comprends bien, on met les gens dans un contexte qui permet effectivement de faire se souvenir de choses, en fait, c'est ça.
Ben oui.
Mais c'est pas obligatoirement d'hypnose, ça
mais
peut
non.
être...
Mais c'est le moteur, où on diverge, c'est que pour moi, le dénominateur commun à toutes ces techniques, le moteur essentiel, c'est la suggestion.
Si vous ne croyez pas complètement à l'hypnose, en revanche, il y a des choses qui, à votre avis, scientifiquement, ont été prouvées.
Si je vous applique sur le front un objet froid, vous allez avoir une réaction de vasoconstriction. Vos vaisseaux vont se contracter, je peux le mesurer. Si maintenant je vous applique un objet chaud, vous allez avoir une réaction de vasodilatation et on peut le voir. Maintenant, si je vous suggère que j'applique un objet froid, vous allez avoir une réaction de vasoconstriction. Donc, si maintenant je vous suggère que je vous applique un objet chaud, vous allez avoir une réaction de vasodilatation. Mais c'est la troisième partie de l'expérience qui est la plus étonnante. C'est sous suggestion. Si je vous applique un objet froid, alors que je vous suggère que c'est un objet chaud, la réaction naturelle de l'organisme va être inversée. C'est-à-dire que vous allez avoir une réaction de vasodilatation. C'est-à-dire que votre cerveau se trompe lui-même.
Pour vous, docteur, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut, sous hypnose ou sous suggestion, comme vous voulez, arrêter de fumer, mieux dormir, plus avoir peur dans la vie?
C'est incontestable.
Attendez, alors ça c'est important. Pour vous, c'est incontestable.
C'est absolument incontestable.
Ça marche.
C'est un fait. Bien
alors,
sûr.
Racontez-nous.
Ah mais il y a
une hypnose.
Simple suggestion.
En l'état actuel de mes connaissances, en l'état actuel des connaissances de la communauté scientifique, il n'est pas démontré que l'hypnose était autre chose que de la suggestion. Ah. Point.
À l'évidence, j'ai pas la prétention de vous mettre d'accord ce soir.
Bon.
Merci beaucoup, Alban. Merci d'avoir tenté de vous exprimer sur ce plateau. Catherine, merci d'être venue. Vous avez vu, ça a beaucoup bougé.
Ouais.
Merci d'avoir apporté votre témoignage.
Merci.
Je vous propose maintenant de changer complètement de sujet et de parler d'un autre phénomène. Alors là, qui, pour le coup, laisse les scientifiques perplexes. En effet, depuis 30 ans, un homme affirme être capable de tordre des cuirs à distance. Ce pouvoir, entre guillemets, a fait sa fortune, une fortune considérable, et sa célébrité dans le monde entier. Mais cela l'a également mis au centre d'une énorme polémique, car vous imaginez bien que tout le monde ne croit pas en ses étranges capacités. Cet homme, c'est Yuri Geller. Je vous propose de regarder son portrait, et ensuite nous verrons ce que nos invités pensent des pouvoirs de ce personnage, on va dire hors du commun.
Yuri Geller aime se déplacer en hélicoptère et vit aujourd'hui dans un manoir de 80 millions de francs dans la banlieue de Londres. Cet Israélien de 54 ans n'a pas fait fortune dans les affaires ou dans la pop musique. Il s'est rendu célèbre dans le monde entier en affirmant être doué de facultés paranormales. Sa marque de fabrique, une simple cuillère, qu'il affirme pouvoir tordre par la seule force de sa pensée. Les cuillères, c'est ce qui m'a rendu célèbre. J'ai besoin de votre aide pour faire fondre le métal.
Fond.
Vous voyez, ça commence. Ce n'est pas une illusion, c'est vrai. Le métal fond, je le sens se ramollir. Fond. Vous voyez, il est très très souple maintenant. Comme du plastique, regardez. Geller est également une star des médias. Dans cette émission britannique, suivie par plus de 30 millions de téléspectateurs, il tente une expérience de télépathie à distance.
Bonsoir et bienvenue à Paris.
Ah, parfait.
I have the results of the French jury.
Geller essaie de reproduire un dessin réalisé par cette journaliste qui est en direct depuis Paris, alors que les studios sont à Londres.
Bon, Yuri, allez, vous allez nous montrer ce que vous avez fait.
Bon, voilà, j'ai dessiné quelque chose. Si ce n'est pas bon, ne m'en veuillez pas.
Comme souvent, Geller subjugue son auditoire. L'homme est passé maître dans l'art de la communication. Mais avant de tordre des cuillères, Geller a commencé sa carrière en Israël comme mannequin. Au début des années 70, il change de registre et affirme posséder des pouvoirs paranormaux. Il se prête partout dans le monde à des dizaines d'expériences sous contrôle scientifique. Certaines auraient donné des résultats troublants. En Allemagne, Geller tente même d'arrêter à distance un téléphérique. Au début, certains savants avouent leurs troubles, mais très vite, l'immense majorité de la communauté scientifique pense que Geller n'est qu'un magicien, habile, mais sans le moindre pouvoir paranormal. En 1987, alors que la polémique à son sujet est extrêmement vive, Geller fait une apparition remarquée sur le plateau de droit de réponse de Michel Pollack. À la fin de l'émission, l'illusionniste Gérard Majax fait irruption sur le plateau. Il veut démystifier Geller en réalisant les mêmes tours que lui.
Tout était truqué, c'est une mascarade, c'est de l'illusionnisme. Mais moi, ça me fait rire. Mais moi, je trouve que c'est dommage que Yuri Geller...
Est-ce qu'on peut faire une dernière expérience?
En trichant, passez bien votre main. Pensez-y. Believe. Believe. J'ai un pouvoir. Moi aussi, maintenant.
Il était à vous, Ladislas.
Les deux hommes sont depuis en procès. Mais un autre homme a eu également quelques problèmes avec les médias. C'est Jean-Pierre Girard. Ce Français affirme être capable de tordre à distance des barres de métal et de faire bouger des objets sans les toucher. Là encore, des scientifiques s'intéressent à ses capacités et la société Péchinet va même jusqu'à réaliser des dizaines d'expériences avec lui. Certaines auraient donné des résultats qui troublent les savants de l'entreprise. Toujours sur le plateau de droit de réponse, Girard tente cette fois de déplacer un objet par la force de la pensée. Mais Michel Pollack veut examiner cet objet rouge et s'étonne de son poids par rapport aux autres.
Une fois, une deuxième fois, je crois.
C'est vous qui l'avez fabriqué.
Remettez le son plus fort. Ah, et je dis que l'objet rouge est tout d'un coup plus lourd. Ce n'est plus celui que j'ai porté, que j'ai pris avant.
Que l'autre, hein. Ça ne bouge pas. C'est pas du tout la même pesanteur. Et ça, c'est quoi, là? Qu'est-ce que c'est, ça? Est-ce qu'on peut l'ouvrir, maintenant?
Si,
c'est le,
si
le,
vous
la
permettez,
boîte rouge.
Si vous permettez.
Et ça, il faudrait l'ouvrir. C'est la seule façon, c'est de la scier.
Je vais me permettre.
Non.
Vous voulez bien?
Vous voulez pas qu'on le fasse à l'image, là, Girard?
Non.
Non, alors là, c'est pas probant comme expérience.
Depuis, Jean-Pierre Girard se fait plus rare dans les médias. Mais de son côté, Geller poursuit malgré d'incessantes controverses ses activités dans le monde entier. Il affirme avoir travaillé pour la CIA et pour de nombreuses compagnies minières ou pétrolières afin de trouver des gisements. Sur son site internet, il vend ses livres et un kit de la puissance de l'esprit censé apporter à chacun des capacités psychiques. De multiples activités qui ont fait sa fortune. Il vit aujourd'hui en père de famille bourgeois et tranquille, même s'il affirme très sérieusement que ses pouvoirs lui posent quelques problèmes domestiques.
Nous avions des problèmes pour manger notre soupe car les cuillères se tordaient. Anna, ma femme, me dit un jour, « Regarde Yuri, ce qui m'arrive !» Elle a même tordu ou cassé des cuillères. Alors j'ai demandé à une entreprise de nous fabriquer spécialement des couverts, impossible à tordre. Les voici, ils sont faits en acier trempé et en bronze.
En tout cas, son incontestable charisme lui ont également permis de s'intégrer parfaitement dans le showbiz. On ne compte plus ses amis célèbres, des Spice Girls, à Mohamed Ali. Récemment, Geller s'est marié et son témoin n'était autre que Michael Jackson. Et comme toute star qui se respecte, Geller a ses petites coquetteries.
Vous voyez, j'ai tordu seulement 10% des cuillères qui sont là. Les autres ont été tordues par un sculpteur qui a mis 7 mois pour les fixer sur la voiture. Cette sphère en cristal m'a été offerte par Salvador Dali. Et sur ce côté-ci de la voiture, cette cuillère appartenait à Elvis Presley. Celle-ci appartenait à John Lennon. J'ai bien connu John Lennon. Il m'a donné cette cuillère 4 ou 5 semaines avant d'être assassiné. C'est ma cuillère préférée.
my favorite spoon.
En 30 ans de carrière, les controverses et les critiques n'ont pas empêché Yuri Geller de poursuivre avec succès ses activités.
J'aimerais maintenant que vous alliez chercher dans vos tiroirs vos montres cassées. Et même si elles sont cassées, remontez-les. Et pendant une minute, tenez-les dans vos mains. Pensez à moi et dites 1, 2, 3, marche. Et une fois encore, 1, 2, 3, marche. Ouvrez vos mains et si votre montre a une trotteuse, regardez-la. Est-ce qu'elle s'est remise à fonctionner ?
Voilà, alors Yuri Geller était invité sur ce plateau. Alors, il n'a pas souhaité venir, ou plus exactement, il ne voulait pas venir s'il y avait des contradicteurs sur le plateau, ce qui était le cas. On n'allait pas vous priver d'être là, hein, messieurs, ce soir. Donc, on se prive de la présence de Yuri Geller, c'est un peu dommage. Cela dit, ben, on a vu ce qu'il faisait, on a vu un petit peu aussi son histoire. Alors, je me tourne immédiatement vers Sylvain. Ça vous inspire quoi, la prestation de Yuri Geller ?
Quand vous montrez un phénomène qui repose sur un trucage, une astuce, une subtilité, et que vous le faites passer pour réel, c'est-à-dire par un don, hein, vous allez influencer la pensée d'une partie de la population qui vont croire mordicus que ce qu'ils ont vu est vrai.
Mais ce que fait Yuri Geller, les montres, les cuirs tordus, vous êtes capable, vous, de le faire ?
Alors, les montres, on peut l'expliquer très simplement, sans faire du tort aux illusionnistes qui s'en servent encore, parce que c'est un truc assez ancien. Et en fait,
on prétend qu'on peut faire redémarrer une montre par la force de la pensée.
Certaines montres. D'abord, des montres très anciennes, parce qu'on s'est rendu compte que dans ces vieilles montres, à Gousset notamment, il y avait une espèce d'huile pour les rouages qui, avec le temps, se solidifiait. Comme du beurre qui fond dans la poêle et qui se solidifie quand il devient un peu trop froid. Mais c'est ce qui se passe un peu avec ces montres. Et pour les faire redémarrer, on les met dans la main, on les chauffe, et à la chaleur du corps, avec la température qui augmente sur le métal de la montre, eh bien parfois, ça fait fondre la graisse et permet au mécanisme de repartir.
Là, ce n'est même pas de la magie, c'est physique.
C'est totalement physique, au même titre que si je dis à nos amis, maintenant, ne m'envoyez pas si maintenant chez vous une ampoule explose. Sur les milliards d'ampoules qui sont, ne serait-ce que dans notre pays, forcément, eh bien, il y en a un certain nombre qui vont éclater au moment même où je vais le dire.
C'est ça, parce que Geller prend souvent les téléspectateurs à témoin. C'est un formidable communicateur. Bien sûr. Souvent, il regarde les gens à travers l'écran et leur dit, voilà, chez vous, il va se passer ça. Et il y a des gens qui téléphonent.
Oui, oui, tout à fait. Mais c'est un artiste remarquable. C'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'il ait passé la barrière et qu'il ait fait croire à des pouvoirs exagéré. Moi, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont la naïveté de croire, mais il faut expliquer une chose, c'est que je crois que c'est enclin chez l'individu, le besoin de croire. On a tous besoin de croire. Certains croient en des dieux, d'autres croient en l'amour, d'autres croient en des choses auxquelles on se rattache. C'est simplement pour se rassurer.
D'accord. Alors, montrez-nous par exemple autre chose qui pourrait être un autre phénomène. Un tour du régalaire, par exemple.
Un tour du régalaire. Ah, ça, c'est les cuillères
de régalaire. Oui, docteur. Ça a fait sa fortune.
Ça fait sa fortune. C'est des petites cuillères en inox. Je vais essayer de la chauffer. Alors, je vais faire tout doucement. Voilà. Regardez bien, si on peut serrer, vous allez voir de la fumée qui se dégage de la cuillère. Je ne sais pas si ça va se voir à l'image. Regardez bien. Et elle commence tout doucement à, voyez-vous, et elle va petit à petit, regardez bien, se casser. Non, évidemment, il y a un stratagème.
Tout là, ça, par exemple, on peut le dire ?
Non, ça, on ne peut pas le dire parce que des illusionnistes le font.
D'accord,
justement,
okay.
Parce qu'ils se servent de la publicité extraordinaire d'Yuri Geller pour montrer cela à leurs amis. Et il y a plusieurs techniques qui existent différentes pour montrer qu'effectivement, on peut tordre les cuillères.
Autre chose qui est très surprenante, qui passe très bien à la télévision, c'est le coup du dessin. Yuri Geller, non seulement est doué, selon lui, effectivement, de pouvoir de psychokinèse, hein, la capacité à influencer sur la matière, mais de télépathe. Alors, là, il fait des coups formidables là-dessus.
Alors, bon, là, je vous ai amené un petit bloc. Alors, docteur, vous allez faire un dessin simple de façon à ce qu'il puisse être authentifié par la suite. Je me tourne, faites-le au centre de la feuille.
Regardez, rien, fermez les yeux.
Je ferme les yeux, un dessin simple, hein, de façon à ce que je puisse capter l'image de ce dessin. Alors, il faut bien expliquer, pendant que le docteur fait son dessin, je ne regarde pas, que en temps réel, cette expérience durerait au moins une demi-heure, une heure. Oui, que là, pour la télévision...
C'est vrai que Yuri Geller fait durer très longtemps.
Mais oui. Et aujourd'hui, la télévision doit aller vite, donc évidemment, je vais essayer de faire le truc vite. Vous pliez la feuille en quatre, vous en faites une boulette, de sorte que je ne puisse pas voir le dessin. Voilà, moi, je vais prendre une autre feuille. Vous me rendez le petit stylo, s'il vous plaît. Voilà. Merci, docteur. Vous avez le dessin. Hein. Mm-hmm. Vous voyez des... Je vois des lignes. C'est un dessin assez rectiligne, on va dire. Il y a des lignes.
Faut que je réponde ?
Oui, vous pouvez répondre.
Absolument.
Absolument, très bien. Est-ce qu'il y a la notion du carré dans votre dessin ? Je vois la notion du carré, c'est exact ?
Absolument.
Je vois. Attendez. Il y a de la. Je vois de la dimension. J'ai l'impression que c'est un cube. Vous avez dessiné un cube. Est-ce que vous pouvez montrer? Voilà, j'ai fait un cube rapidement sur la petite feuille. Et on va comparer. Donnez-moi votre dessin. On n'est pas complices, évidemment, il faut l'expliquer.
Ah non,
amis.
Tout à fait. Hein?
Absolument. Et regardez, voyez-vous, c'est. Alors, on voit bien, voilà, ce sont. Je l'ai peut-être mis à l'envers, voilà, ce sont deux cubes.
Donc pour vous, Yuri Geller utilise ce genre de truc ça, sur ce dessin, par exemple.
Plein.
Et alors, pour faire un dessin, il y a beaucoup de trucs différents.
Ah oui, il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. Le plus simple étant le compère. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce n'est pas notre cas, mais si j'avais donné un petit billet sous la table au docteur, mais un gros billet, on ne sait jamais, pour ses infos, il aurait peut-être accepté de créditer une expérience. Et il ne faut pas oublier que maintenant, aujourd'hui, certaines personnes ont fait des fortunes colossales, et c'est le cas de M. Geller, et qui peut évidemment aider la tractation pour la réussite d'une expérience parfois un petit peu escroquée. C'est un magicien qui est devenu par la suite une espèce de faiseur de miracles, parce que économiquement, financièrement, c'était plus rentable.
Il est plus riche que vous, quoi, grosso modo.
Oui, mais ça, c'est son problème. S'il est plus heureux, tant mieux pour lui. Oui. Mais ce n'est même pas la question. C'est simplement que, après, il faut voir l'exploitation que l'on en fait. C'est-à-dire que moi, M. Geller, moi, il ne me dérange absolument pas tant qu'il ne va pas essayer d'endoctriner certains individus par le biais de ses expériences. C'est ça, moi, qui me dérange.
Voilà. C'est-à-dire, scientifiquement, est-ce qu'il y a eu des recherches, hein, parce que finalement, il y a des gens qui croient, donc est-ce que certains scientifiques ont essayé de mettre en évidence des choses comme ça?
Et chaque fois qu'il y a un contrôle d'un illusionniste compétent, il n'y a aucun résultat.
D'accord. Et sur la télépathie, est-ce que, oublions Yuri Geller, est-ce qu'on a mis en évidence, avec d'autres gens, des formes de télépathie? Est-ce que c'est déjà arrivé?
À ma connaissance, non.
Non. Donc la télépathie n'a jamais été mise en évidence scientifiquement.
Absolument.
D'accord. Bon, messieurs Bercy, nous allons maintenant changer de thème et aborder ce que l'on appelle couramment les guérisseurs ou les magnétiseurs. Être magnétiseur, c'est un métier tout à fait légal, inscrit au registre du commerce, même si, bien sûr, cette profession n'est pas reconnue, c'est le point que l'on puisse dire, par la médecine. Pourtant, dans les campagnes et même dans les villes, ils sont des dizaines de milliers à tenter de soulager leurs clients par des moyens mystérieux qui n'ont vraiment, mais alors vraiment rien à voir avec la médecine traditionnelle. Je vous propose maintenant de faire la connaissance en images de deux magnétiseurs, Jean-Claude Audigier et Marie-Luce Lemapian.
C'est sur les hauts plateaux de l'Ardèche que Jean-Claude Audigier vient se ressourcer. Il est magnétiseur radiesthésiste. Et son énergie, il dit la puiser dans ses pierres, une sorte de sanctuaire qu'il a lui-même érigé. Cet ancien gardien de chèvres a découvert il y a 20 ans qu'il possédait le don de guérir, un don, selon lui, venu du ciel.
Le magnétiseur, le radiesthésiste, et le sourcier, il n'a absolument pas d'énergie dans ses mains. On n'est qu'en chair et en os, comme tout le monde. Ce qu'il y a, il canalise l'énergie du haut et il la transmet à l'individu pour son problème qu'il va nous demander, en fait. C'est ça, un peu, la clé de la réussite. D'ailleurs, l'individu qui n'y croira pas ne vous fera pas de demande. Et ça marche, pourquoi? Parce que l'individu vous le demande, il y croit.
Avant tout, il faut donc croire. Et c'est une croyance tenace dans la région. On vient le voir pour trouver une source d'eau, retrouver des personnes disparues et surtout pour ses capacités à soulager le mal. Scientifiquement, aucune étude n'a aujourd'hui prouvé l'existence du magnétisme et de ses vertus thérapeutiques. Cela n'a pourtant pas empêché Jean-Claude Audigier de monter un cabinet qu'il ouvre 3 fois par semaine. Et les demandes sont plutôt surprenantes. De l'aide pour réussir un examen, soulager un mal de dos et même détecter une dépression nerveuse par téléphone.
Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Elle est très fatiguée, elle fait une mini-déprime et je pense qu'il faut prendre patience. Hein. Et l'aider surtout, il faut l'aider.
La salle d'attente ne désemplit pas. On se croirait chez un médecin.
Bonjour.
Bonjour madame.
Ça va?
Ça va. Rentrez. Assoyez-vous.
Là, moi, je venais vous voir parce que j'ai très mal à mon dos.
Oui?
Et ben, on m'a dit que j'avais une cruralgie, une sciatique, mais enfin, j'ai quand même très mal.
J'aimerais bien que vous leviez un peu pour voir si vous êtes réceptive aujourd'hui. Quittez vos chaussures. Alors, voilà, je vais voir si vous êtes réceptive. Hein. Je vais voir si vous êtes réceptive aujourd'hui. Je ne sais pas, je sens quelque chose. Je vais vous mettre les mains, je vais sentir si vous...
Pour mettre en évidence son magnétisme, Jean-Claude Audigier attire vers lui sa cliente par simple imposition des mains.
Oui, quand même, c'est pas mal, c'est pas mal. Je voudrais essayer, mettez-vous bien pieds joints. Hein. Je ne suis pas un médecin, je ne suis pas, au contraire, les médecins, c'est des gens, on en a besoin, on est un complément d'aider les gens. Et on va contrôler un peu ça, on va voir un petit peu d'où ça vient. Hein. Le pendule, c'est un instrument de travail. On peut travailler avec le regard, on peut travailler avec la main. C'est un nerf qui est pincé dans la colonne vertébrale. Alors je vais magnétiser,
Je vais magnétiser pour dépincer ce nerf.
Je me mets debout.
Trop ici. Non, restez comme ça. Là. C'est ce nerf.
Un pendule pour le diagnostic, l'imposition des mains pour les soins, absolument rien de médical ni de rationnel. Quant à la démonstration qui suit, rien a priori de très convaincant.
Alors donc, avec un pendule, par exemple, vous voyez, on demande s'il y a une croix dessous. Il y a une croix, là. Hein. Je demande s'il y a la croix. Le pendule tourne dans les aiguilles d'une montre. Il me dit oui. Il dit oui. Et si, par exemple, j'enlève la croix de dessous, le pendule tourne à l'envers. Il me dit non, il n'y est plus. Et là, quand on regarde chez quelqu'un, un individu ou chez un animal, s'il a un problème, par exemple, pour savoir l'endroit où le nerf est pincé dans la colonne, ou s'il a un petit problème, on regarde de quel endroit ça vient, s'il a une perturbation, si c'est le cœur, la tension, si c'est le foie, alors on regarde, puis on cherche. Alors le pendule, lui, il tournera à l'endroit où vous avez un problème. Mais tout est de l'intuition. Vous avez de l'intuition, c'est instantané. Ça ne s'explique pas scientifiquement. C'est comme ça.
Je vous remercie et je vous dois combien, monsieur?
Ce que vous voulez, ce que vous voulez.
Bah, écoutez,
ce que vous voulez.
Voilà.
Ça m'est tombé comme ça, ça peut vous tomber demain dessus, sur n'importe qui. Hein. Les gens venaient à la maison et m'ont demandé si je ne pouvais pas leur enlever la verrue ou le zona ou autre. Voilà comment je suis devenu radiesthésiste en quelque sorte. Je ne suis pas le seul en France, ni dans le monde, ni dans d'autres. Et je crois que l'homme vit sur Terre sans se connaître lui-même, en fait, aussi.
Dans la salle d'attente, on attend patiemment son tour. Sa clientèle vient d'horizons très divers, mais ceux dont préfère parler Jean-Claude Audigier ne sont pas choisis au hasard.
C'est vrai que beaucoup de personnes viennent me voir, hein. Des prêtres, des vétérinaires, des médecins, infirmières, enfin, toutes sortes de personnel soignant.
Il m'a dit, mais vous avez des verrues, monsieur Bianès? Je les sens. Je lui ai dit, oui, j'ai deux verrues, et il y a un certain temps que j'ai deux grosses verrues, on poussait à l'index. Il m'a pris ma main, il m'a fait deux ou trois signes de croix sur les deux verrues, et au bout de quelques temps, les verrues se sont desséchées. Et vous voyez, maintenant, j'ai poussé l'index, tout à fait normal, il n'y a absolument rien plus. Il faut quand même y croire.
On n'est pas des charlatans. Là, il y a des milliers de lettres de témoignages, des milliers de lettres, mais il y a des adresses un peu consultées. Il y a des adresses sur des tas de domaines, hein. Sur de l'eczéma, sur un kyste, sur des verrues.
Mais aucune lettre de tous ceux qui n'ont pas été guéris. Les témoignages de malades et leur bonne foi sont les seuls éléments qui permettent de dire que dans certains cas, l'action des magnétiseurs serait bénéfique. Pour le docteur Olivier Dubois, ancien secrétaire général du Conseil national de l'Ordre des médecins, les magnétiseurs n'agiraient que dans certains cas.
Dans des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire où il y a une composante psychologique comme l'eczéma, l'asthme, le mal de dos, la céphalée, la migraine, l'énurésie, l'anorexie, bien entendu. Alors ne me demandez pas de savoir par quel moyen agit le magnétisme, je n'en ai pas la moindre idée, je ne suis pas un savant dans ce domaine, mais indubitablement, les magnétiseurs peuvent rendre service à un certain nombre de personnes qui souffrent des maladies que je viens d'évoquer.
Les guérisseurs pourraient donc aider à soigner les maladies psychologiques. Comment expliquer alors les guérisons obtenues sur des animaux? Il y a quelques mois, un éleveur appelle Jean-Claude Audigier pour un cheval qui s'est profondément coupé la patte sur un barbelé. Le magnétiseur procède aux soins par téléphone. Il demande à l'éleveur de donner au cheval du sel sans oublier de faire dessus plusieurs signes de croix. Après 4 jours de cet étonnant traitement, l'éleveur constate une évolution de la plaie.
J'ai rappelé Jean-Claude au bout de 4 jours pour lui dire qu'il avait une grosseur sur l'épaule. Jean-Claude m'a dit « c'est normal, c'est le mal qui part ». Et sa grosseur à l'épaule diminuait et au bout de 10 jours, le cheval était carrément guéri. Le vétérinaire aurait été obligé de faire des points et à l'endroit où il avait la blessure, à son antérieur avant, à l'antérieur droit, c'était impossible de faire des points. C'est-à-dire que c'était un cheval qui était perdu, qui était destiné à l'abattoir. Jean-Claude, il a un don, c'est qu'il arrive à enlever le mal par une force qu'on ne connaît pas.
Un résultat troublant que les vétérinaires de la région ne peuvent que constater.
C'est difficile à expliquer parce que quand on ne s'explique pas quelque chose, on a tendance à le rejeter, quoi. Je dirais que la médecine, c'est quelque chose de rationnel et là, on est dans l'irrationnel, quoi, hein. Mais on ne peut faire qu'un constat et moi, le constat, je l'ai fait.
Magnétiseur, guérisseur, on ne sait comment nommer ces pratiques que l'on croit trop souvent réservées aux zones rurales. Une idée fausse, les médecines parallèles sont aujourd'hui très présentes dans les grandes villes.
Nous sommes en région parisienne. Marie-Luce Le Mafian est fille de médecin. Elle a déjà 4 enfants quand une voisine lui révèle qu'elle a le don de guérir. Elle essaie sur son entourage, se documente sur le magnétisme et affirme obtenir des résultats.
Ah là, je suis en train de rétablir les énergies dans le ventre de Carole. C'est-à-dire que d'abord, je prends contact de tout ce qui se passe dans son ventre, les faiblesses, les zones un peu plus fortes, là où il y aurait de la congestion, où il y aurait des faiblesses. On vit ça à deux, hein, de façon assez intense. Le magnétiseur ressent dans sa main plein de choses, des manques, des faiblesses, des fourmillements très forts, des ondes qui se dégagent d'un coup, qui me font sursauter dans la main. Et également la patiente en général.
Moi, je ressens que ça bouge dans mon ventre. J'ai des fourmillements aussi au niveau des mains. Et quand je ressors de la séance, j'ai froid.
Après un accouchement difficile, cette femme souffre de saignements importants et quasi permanents. 4 ans de consultation et aucun résultat. Depuis quelques mois, elle se dit soulagée par Marie-Luce Le Mafian. Pourtant, le médecin qui la suivait lui laissait peu d'espoir.
La médecine me propose 2 solutions. Une solution, j'arrête le... je continue à saigner jusqu'à la ménopause. La deuxième solution, c'est de m'enlever l'utérus. Et pour moi, Marie-Luce a été, je dirais, ma sauveuse de cette expérience et de ne pas subir d'opération et d'aller jusqu'à ma ménopause tranquillement.
En fait, quand les personnes viennent en soins chez nous, elles ont toujours un dossier médical, hein, parce qu'on sait sur quoi on va travailler. Si vous veniez avec une maladie non identifié, de toute façon, je vous renverrai vers un médecin qui fera le diagnostic et ensuite je prendrai en charge si c'est nécessaire, si je le peux, si c'est dans mes compétences. Mais il m'est donné aussi quelquefois de trouver une anomalie dans un corps d'un patient qui n'a pas été encore diagnostiqué ou apparu en symptômes. Dans ces cas-là, je renvoie, j'ai la chance de travailler avec des médecins, de renvoyer vers des médecins pour qu'eux posent le diagnostic. C'est extrêmement important, ça.
Depuis début septembre que j'ai fait mes premières séances et je suis guérie. Je peux dire guérie. Je n'ai plus de traitement. Je n'ai plus de saignement entre les deux. Je suis devenue normale, quoi.
Marie-Luce, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Alors,
ce qu'on vient de voir dans ce reportage est assez étonnant. Alors, est-ce que vous avez une explication, j'allais presque dire rationnelle, à ce que vous faites? Parce que c'est très étrange. On vous voit bouger les bras comme ça.
Non, j'ai aucune explication. J'attends d'en avoir une, d'ailleurs.
Ouais.
Je pense que je suis animée par un grand amour des patients. J'ai envie de les aider, les soulager, les aider à vivre normalement. Donc, c'est ça qui m'anime. Et c'est la seule explication que je peux donner.
Vous avez conscience de la responsabilité quand même très importante, parce que les gens viennent vous voir, visiblement, en attente de quelque chose.
Ouais.
Et ça ne vous intimide pas considérablement, ça?
Ça pourrait m'impressionner, mais j'essaie de rester simple, de rester à leur écoute, à leur service, mais avec un grand S, et puis les soulager, de faire ce que je peux pour eux.
On a des témoignages, la bonne foi des patients ou des clients de Marie-Luce, c'est évident, ce sont des gens qui croient sincèrement avoir été guéris. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Bah, j'aurais plusieurs observations à faire. Dans le reportage qui vous concerne, il y a une dame qui avait donc des saignements, des métrorragies,
ouais.
Qui avait, et pendant 4 ans, la médecine classique n'a rien pu pour elle,
ouais.
Et avec vos passes magnétiques, enfin, vous l'avez guérie. Hein, elle n'a plus de métrorragie.
Ouais.
Je me permettrai de vous faire remarquer que Marie Cardinal, dans un roman tout à fait étonnant qui s'appelle « Les mots pour le dire », a obtenu la même chose avec la psychanalyse. Tout ça, sa conviction, la conviction de cette dame, dans son pouvoir de guérir, est extraordinaire, est absolument extraordinaire. Et c'est évident que cette dame est de bonne foi. Si on fait le catalogue de toutes les études sérieuses qui ont été faites dans ce domaine, et qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence entre le magnétiseur et le placebo de magnétiseur, ça pose question. On dit, tiens, là aussi, il y a un moteur commun qui est... Alors, comment qu'on va appeler ça? L'effet placebo, la suggestion? Peu importe. Mais la conviction du thérapeute, qu'il soit médecin ou non, la conviction associée à la conviction du patient, mais ça me donne un effet placebo maximum.
Alors, comment vous expliquez?
Alors, comment j'explique?
Comment vous expliquez que parfois, certains médecins n'arrivent pas à des résultats, par exemple, et que les magnétiseurs y arrivent? Ce serait quoi la différence?
On peut déjà penser... qu'il y a un certain nombre de médecins qui, sur le plan psychologique, sont plus que limités. Hein ? Ben, y a un certain nombre de consultations médicales. Je vais encore avoir des problèmes avec l'ordre, mais peu importe. Il y a un certain nombre de consultations
le
médicales...
Le médicament ne fait pas tout, c'est ça que vous voulez dire.
...qui se résume à 5 minutes avec prescription d'un médicament. On ne peut pas dire que la prise en charge psychologique, la bienveillance, la sympathie, l'empathie, soit particulièrement favorisée dans ce cadre-là.
D'accord. Hein ? Et donc, lorsqu'on se contente de faire une... une prescription de médicaments et comme ça... Ben,
l'effet psychologique, il est mineur, là.
D'accord.
Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais
et le médicament ne suffit pas pour vous. Il faudrait autre chose, en plus.
Mais voilà. Mais voilà.
Mais que j'ai la foi pour soigner mes patients, c'est OK. C'est d'accord, j'en doute pas. Mais quand je soigne un petit bébé de 2-3 mois pour un canal lacrymal bouché ou des colites très fortes, cet enfant, de, comme j'en ai soigné un qui avait 8 jours, cet enfant, l'effet placebo...
Bon, alors vous avez la chance, comme moi, et comme la grosse majorité des médecins, de soigner des troubles qui, dans 70% des cas, guérissent tout seuls.
Alors, si j'ai bien compris, il y a une partie de statistiques, c'est-à-dire il y a des maladies qui partent toutes seules.
Oui.
Et puis, ensuite, il y a une partie de thérapie, et vous pensez que certains guérisseurs sont des très bons thérapeutes.
Ah, mais ce sont d'excellents thérapeutes.
Ah, carrément.
Ce sont d'excellents thérapeutes, parce que, qu'est-ce qu'on a vu? Des lombalgies. On a vu des verrues. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Des migraines, enfin, tout ça, comme disait mon confrère, là, Olivier Dubois, c'est une pathologie extrêmement psychosomatique, psychofonctionnelle et placebo-sensible.
D'accord. Marie-Luce, est-ce que vous avez une explication qui va un peu plus loin? Vous disiez que vous étiez un peu à court d'explications, mais est-ce que ça vous paraît crédible?
Pas d'explication à donner. Certainement, vous êtes médecin, vous avez certainement raison. Mais enfin, disons que je fais certains soins, comme les brûlures par exemple, ou les hémorragies, que j'ai la chance de pouvoir soulager uniquement par des rituels, des secrets, des formules secrètes, on va dire, qui ont vraiment un résultat, alors que les patients, je ne suis pas à côté.
Alors, ça, c'est très particulier. Les charmeurs de feu, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans les campagnes. Hein. C'est des brûlures, on fait... Alors, c'est presque un peu de la magie, quand même. Vous faites des signes de croix, souvent, des choses comme ça.
Oui, effectivement, ça fait partie du rituel.
Est-ce que vous avez un pourcentage? Est-ce que vous savez...
En magnétisme
En général, oui,
en magnétisme,
gens qui
viennent vous voir. Il y a quand même... facilement 80% quand même de réussite, de guérison.
Mais sur des maladies bénignes,
de tout,
parfois plus graves.
Absolument de tout. Alors là, explication, mais de tout, oui.
Attendez, de tout.
Enfin, de tout, de différentes choses, des souffrances,
des problèmes. C'est pas des méningocoques, des...
Mais je prenne des choses très graves, parce que là, c'est important, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, donc
il ne faut pas non plus laisser donner des espoirs. Bien sûr, comme disait le docteur Dubois, tous les problèmes de maladies psychosomatiques, c'est certain. Bon, on va avoir aussi quand même au niveau certains kystes quand même qui peuvent disparaître, certains fibromes qui peuvent se dessécher. Les choses, on peut avoir une intervention dans certains domaines de...
Là, ça vous laisse plus perplexe, j'imagine
Non, pas du tout, ça. Non. Il y a un certain nombre de pathologies de ce type-là qui évoluent favorablement, Dieu merci, vers la guérison. Mm. Mais moi, lorsque je parle de pathologies graves, ce sont des septicémies, enfin, ce qui fait quand même que la médecine moderne a eu des progrès thérapeutiques considérables depuis le dernier siècle.
C'est indéniable.
Bon. Il y a quand même beaucoup de choses extrêmement troublantes, extrêmement négatives qui se passent dans votre milieu. Il y a des gens qui ne sont pas toujours très recommandables. Oui. D'abord, ceux qui essayent de vous extorquer un maximum d'argent. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Il n'y a pas de raison que votre service coûte très cher, j'imagine.
Non, il n'y a pas de raison de prendre une consultation d'un petit spécialiste, on va dire.
D'accord. Donc les gens qui demandent des dizaines de milliers de francs pour guérir, il faut vraiment les fuir.
C'est une escroquerie, véritablement, oui.
Alors, quelles sont les prudences à avoir si on veut aller voir?
Ah, ben les prudences. Les prudences, quand même, d'avoir un diagnostic correct. Et ça, en général, ce sont les médecins les mieux placés. Donc, une fois que vous avez un diagnostic correct, on sait bien que si on vous fait un diagnostic de maladie grave à 80% mortel, il vaut mieux s'adresser à la médecine académique qu'au magnétiseur.
Les médecins, c'est le plus important à aller voir.
Alors, une fois que vous avez passé un nombre de scanners considérables qui ne montrent rien, de RMN qui ne montrent rien et que vous êtes migraineux, si un magnétiseur vous fait du bien, mais moi, je leur tire mon chapeau.
D'accord. Si on a épuisé les recours de la médecine, pourquoi pas aller tenter
Mais absolument. Moi, je pense que les magnétiseurs sérieux comme madame, parce que c'est vrai qu'il y a un grand nombre de charlatans qu'il faut dénoncer, mais ce type de magnétisme ont une fonction, vous savez, le pouvoir de guérir, c'est pas réservé à ma corporation.
Il y a des gens qui peuvent faire du bien.
Mais oui, il y a des gens qui font du bien. Bon, mais cette dame, elle peut faire du bien, regardez. Elle est pleine de douceur, de gentillesse, etc. Bon, elle a une empathie fantastique. Mais je suis désolé, elle n'a pas le don. Si, elle a le don, qui est de l'ordre de la conviction, de la bienveillance. Mais le magnétisme, il n'a rien à voir là-dedans.
Bon, écoutez, merci beaucoup, en tous les cas, Marie-Luce, d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Je vous propose maintenant d'aborder un domaine qui n'a rien, mais alors absolument rien de scientifique, puisqu'il s'agit des fantômes. Et là, c'est plutôt simple, on y croit ou pas. Lors de la préparation de cette émission, nous avons rencontré des personnes qui croient aux fantômes, le plus sincèrement du monde, et nous les avons suivies, sans trop y croire, pour être, pourquoi pas nous aussi, témoins de phénomènes étranges. Regardez ce que ça a donné.
Au cœur des Ardennes belges, la petite ville de Chimay et son château. Derrière ses murs austères vivent depuis plus de 1000 ans les Caraman-Chimay. Cette illustre famille veille sur ce domaine qui a survécu aux guerres et aux incendies. Un château et des histoires peuplées de princes et de princesses auxquelles s'intéresse un autre prince, Michel de Grèce. Connu pour son extravagance, ce romancier a succès à la passion des châteaux
et croit à l'existence des fantômes. Perplexe, nous l'avons suivi pendant 2 jours dans son exercice favori. Lui-même appelle cela une chasse aux fantômes. Et s'il a choisi de nous emmener ici, ce n'est pas par hasard.
Il est habité par des gens qui respectent les fantômes et qui y croient. Ce qui fait qu'il se manifeste plus librement. Nous sommes tous capables de communiquer avec les fantômes.
Elisabeth, bonjour, chère princesse.
Je suis heureuse de vous voir. Avez-vous fait bonne route?
Froide. Elisabeth, est-ce que aujourd'hui vous nous permettez un peu d'explorer vos fantômes?
Ils seront enchantés.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Pour la princesse Elisabeth de Chimay, notre visite n'a visiblement rien de surprenant. Les fantômes le semblent faire partie de son quotidien. Et n'allez surtout pas lui dire qu'ils n'existent pas.
Mais je les sens. En fait, je ne peux pas vous expliquer. Quand j'ai quelque chose qui ne va pas, je leur parle. Je leur dis, écoutez, je suis très contrarié. Quelque chose qui ne va pas, et ben, y a un petit miracle qui se produit. Ça s'arrange. Il faut y croire ou ne pas y croire, ça m'est égal. Moi, j'y crois.
Y croire ou ne pas y croire, Michel de Grèce, lui, est convaincu. Il a même une théorie très précise sur le sujet.
C'est l'esprit d'un être qui a vécu. Et cet esprit, à cause des conditions de sa mort, généralement une mort violente, n'est pas passé dans l'au-delà.
Et Michel de Grèce poursuit sa visite. La maîtresse des lieux, elle, nous présente le plus actif de ses pensionnaires. Il est mort il y a 2 siècles. Mais pour elle, il est toujours bien présent.
C'est Thomas Alexandre Marc qui a été tué à 27 ans à la bataille de Minden. Il avait épousé Adélaïde Charlotte, qui elle-même a été guillotinée. Et le pauvre Thomas n'a jamais pu rentrer chez lui. Alors je crois qu'il en a ressenti une certaine amertume et une certaine frustration. Il manifeste sa présence de 1000 façons. Il y a ceux qui sont plus malins que moi qui le voient. Moi, je ne vois rien. Mais je le sens tellement. Et puis alors, il s'est manifesté drôlement vis-à-vis de certains, en s'asseyant sur un lit, en les empêchant de bouger. Et puis quand les gens m'ennuient, ils s'arrangent pour qu'ils s'en aillent.
Et il semblerait que la princesse de Chimay ne soit pas la seule à avoir trouvé une utilité à la présence des fantômes. À l'étranger, ils font même vendre.
En Angleterre ou même dans d'autres pays, il y a des gens qui adorent ça et qui cherchent les maisons hantées. Et donc ça devient justement un point de valorisation des maisons à rented, haunted house. Vous trouvez ça en Angleterre. Souvent en Amérique aussi, louer une maison hantée, ça devient passionnant.
Imperturbable, la princesse de Chimay est loin de ses considérations matérielles.
Quand les gens sont morts, je crois qu'ils sont un malin plaisir de venir vous retrouver. Si vous les ennuyez, et si vous dites des tas de choses méchantes à leur sujet, c'est tout naturel qu'ils se vengent. Et c'est humain, après tout. Mais vous pensez bien que quand je serai morte, je ne vais pas abandonner Chimay. Si Dieu me le permet, je reviendrai traîner par là. Et si mes descendants ne se comportent pas comme je l'entends, là je leur tirerai les pieds.
Les enfants de la princesse ne partagent pas ses croyances. Mais une de ses proches amies prétend avoir vécu une expérience troublante lors de sa première visite au château.
Eh bien, la première fois que je suis venu dans cette chambre, la première fois que je suis venu au château, mon amie Elisabeth, la princesse de Chimay, m'a introduite immédiatement dans cette chambre au moment où nous allions dormir. Et elle me dit, ma petite amie, vous savez, vous n'ignorez pas que le château est un tout petit peu occupé parfois et que parfois il y a des présences qui peuvent être étonnantes. C'est ainsi que si cette nuit vous entendez quelqu'un soupirer au-dessus de vous, n'ayez aucune crainte, il n'est pas méchant. Ah. Et si vous voulez vous lever et que vous sentez une main sur votre poitrine, il n'est vraiment pas méchant, vous n'avez rien à craindre. Et au moment où j'ai fermé la porte, j'avais terminé ma toilette, je suis allée fermer la porte à clé avec la boule qui est pour la coincer. Et mes 2 autres boules qui est dans les oreilles, ce qui fait que honnêtement, je n'ai rien entendu. Mais quand vous vous réveillez dans une chambre que vous avez occupée toute la nuit, que vous avez fermée consciencieusement parce que vous aviez un tout petit peu peur, il faut le dire, et que vous retrouvez la porte ouverte, j'ai été étonnée.
Simple hallucination ou farce? Il n'en faut en tous les cas pas plus pour alimenter la rumeur, comme en témoigne cette habitante de Chimay.
Je pense que les gens qui ont vécu au château avaient des personnalités tellement fortes qu'ils en ont imprégné les murs de leur présence et de leurs souvenirs, de leurs nombreux souvenirs, ce qui ferait que, pour moi, ils auraient laissé des fantômes.
Les châteaux, les palais ont toujours été des lieux de pouvoir.
Donc le pouvoir attire les jalousies, les drames, les assassinats, les intrigues, les passions. Donc il y a beaucoup plus de fantômes créés par les tragédies qui se trouvent dans les lieux de pouvoir. C'est aussi simple que ça.
Croyante, la princesse de Chimay préfère, pour calmer les esprits, faire appel au service d'un prêtre exorciste.
Vous savez, il y a toujours des natures inquiètes. On s'imagine que les fantômes sont des choses terrifiantes qui arrivent avec des draps blancs et des chaînes, mais c'est pas du tout ça. Mais enfin, pour apaiser les esprits tourmentés, il vaut mieux demander un exorciste, parce que comme ça, on est tranquille. Et puis tout le monde est content.
Il arrive parfois qu'il y ait des phénomènes bizarres. Je pense à ce qui est arrivé dans la petite maison là, de l'entrée du château, ou dans le mur, et on entendait des bruits bizarres. Et puis, on a démoli la muraille et on a trouvé un enfant qui avait été muré là-dedans. Il est bien évident que si un exorciste était arrivé, il aurait mis de l'ordre et on n'aurait plus été embêté.
Pour Michel de Grèce, le théâtre du château est le lieu le plus peuplé de fantômes. Pourtant, face à notre caméra, il ne voit et ne ressent rien, même s'il affirme que ce n'est pas toujours le cas.
De temps en temps, on a simplement l'impression qu'il y a une présence, c'est-à-dire qu'on a la certitude qu'il y a quelqu'un d'autre dans un environnement. D'autres fois, petit à petit, on voit des êtres, on voit c'est une femme, un homme, comment est habillé, tout ça. Ces manifestations ne sont jamais gratuites, en ce sens qu'elles ont toujours un sens ou un but.
La princesse de Chimay organise chaque année dans ce théâtre un festival de musique classique. En 1995, un musicien aurait été témoin de quelque chose.
Nos petits musiciens qui étaient venus pour le concours, il nous a raconté qu'il était en train de répéter. Et au pied de cette loge, il était 10 heures du matin, il a aperçu un homme en tenue de soirée et qui fumait et qui lui a dit « N'ayez pas peur ». Continue à jouer, j'adore la musique, c'est pour ça que je suis là. Alors on lui a montré des photos différentes tout de même, sans rien lui dire, et il est tombé en arrêt sur une photo qui est là. C'était très clair, c'était mon mari, et il était mort depuis un an ou deux.
Au cours du tournage de ce reportage, notre équipe n'a été témoin d'aucune apparition, ni du moindre phénomène étrange.
Chimay, le 19 septembre 1872.
Nous avons simplement constaté que le passé est ici omniprésent. C'est peut-être ce climat qui permet à ceux qui veulent y croire de sentir des présences et pourquoi pas de voir des fantômes.
Heureusement pour nous qu'il y a les fantômes, parce que s'il n'y avait que les vivants, eh bien la vie serait bien assommante.
Bon, docteur Hollas, comment vous expliquez-vous, médecin, cette conviction objectivement sincère de la princesse, elle croit aux fantômes.
Alors je vais vous faire un aveu. À mon sens, il s'agit d'une vieille excentrique qui reçoit des excentriques et qui se raconte des histoires d'excentriques. Point.
D'accord. C'est-à-dire que pour vous, elle n'y croit pas réellement.
Ah mais si, elle y croit. Mais bien sûr qu'elle y croit.
Elle a l'air sincère.
Oh, quoique peut-être qu'il y a un peu de jeu aussi. Hein.
Cela dit, comment vous expliquez dans ces cas-là que les invités qu'elle reçoit au château très régulièrement, eh bien, certains d'entre eux affirment, c'est leur témoignage, c'est leur bonne foi, affirment avoir été témoins de choses étranges.
Mais pourquoi ? Écoutez, elle est gentille comme tout, cette vieille. Hein, elle doit recevoir...
C'est une princesse.
En plus, c'est une princesse avec une histoire et vraisemblablement étonnante. Pourquoi ? Ses amis à elle iraient la contredire. Pourquoi lui ferait-il de la peine? Mais moi, là, je fais de la psychologie de concierge, là. Mais enfin, ils entretiennent ce mythe. Bon, oh, c'est plutôt sympathique, mais on ne va pas en faire un plat.
Et, les gens qui entendent des bruits, des esprits frappeurs, enfin, il y a des quantités de témoignages, hein, souvent, de murs qui résonnent, d'apparitions étranges.
Oui, lorsqu'il y a une enquête sérieuse qui est faite, très souvent, ces phénomènes apparemment extraordinaires se résument à des phénomènes ordinaires.
Ça voulait dire des canalisations qui
font etc., des choses comme ça. Lorsqu'il y a apparition, vision, alors là, ça se résume à des pathologies mentales qui peuvent être de l'ordre du délire, effectivement, du délire hallucinatoire. Bon, qu'est-ce que vous voulez, des fous, il y en a.
La communauté scientifique n'a jamais accrédité un témoignage comme étant quelque chose de réellement troublant.
Jamais. D'accord. Jamais.
Et est-ce que c'est grave, docteur, de croire aux fantômes?
Oh, je pense pas.
Non.
Non, si ça reste au niveau de la croyance et que ça entraîne pas des mouvements sectaires, des choses comme ça.
Messieurs, juste pour conclure, on a abordé différents thèmes ce soir. Alors, pour essayer de résumer, est-ce qu'il y a des choses qui vous troublent objectivement dans ce qu'on a vu et des choses réellement sur lesquelles vous êtes catégorique? Alors, docteur, on a vu pour vous les guérisseurs, c'était
Non,
intéressant.
Oui, c'est tout à fait intéressant parce que ça permet à la médecine de s'interroger sur ses failles, parce que la médecine académique, scientifique, etc., a des failles terribles sur la prise en charge psychologique des malades. Ça, c'est une évidence. Le reste, je suis désolé, c'est de la couillonnade.
Sylvain.
Oui, j'ai un peu le même discours que le docteur. C'est-à-dire que moi, ma grand-mère fait du magnétisme, elle n'en tire aucun revenu, et c'est vrai qu'elle a des résultats très séduisants, mais elle considère elle-même que c'est simplement un don d'amour et d'attention et une démarche pour rassurer la personne qui est inquiète. Et on a un peu cette approche avec un hypnotiseur, avec un voyant, avec toutes ces sciences parallèles qui ne sont là ni plus ni moins que pour rassurer notre état d'être humain, notre condition humaine.
C'est vrai que vous avez plutôt une certaine bienveillance tant qu'il n'y a pas une exploitation un peu mercantile, voilà, ou quoi que ce soit. C'est ça, hein, pour
conclure. Absolument, absolument. Ah.
Bon, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je précise, docteur, que vous collaborez à une revue formidable. Alors, elle est un peu pointue, mais elle est très intéressante. C'est Science et Pseudoscience. C'est édité par l'Association Française d'Information Scientifique. Alors, il faut un petit peu s'accrocher, mais sincèrement, une fois qu'on est dedans, c'est absolument passionnant. Docteur, merci beaucoup. Sylvain Mirouf, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez suivre notre émission sur notre site web m6.fr. Et en attendant, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur M6. Au revoir.
Normal, paranormal, continue sur m6.fr.